Voilà, ça marche. Bien, alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Stamboul, qui est ici et qui va nous parler de la situation au Proche-Orient. Le titre « Le Proche-Orient, la paix est-elle encore possible ?» avec un point d'interrogation était une forme un peu neutralisée, je suppose, de tout ce qu'il va raconter. Voilà, très neutralisé, donc je vous préviens d'avance pour ceux qui ont le cœur sensible, parce que nous avons eu des expériences à Jussieu d'expression sur les questions de la Palestine, et il y a eu, à la suite de ces expressions, quelques incidents qui n'avaient rien de diplomatique, mais qui étaient plutôt dans le registre de la violence, hein, avec des sinistres personnages qui ont utilisé de manière un petit peu plus brutale pour régler les problèmes politiques. Voilà, donc du coup on avait avec son accord un petit peu adouci, hein, pour éviter que ça suscite trop de vocations à venir non seulement écouter mais perturber. Donc là tout a l'air d'être calme, donc c'est parfait, on va pouvoir discuter des problèmes de fond. Alors, présenter Pierre Stamboul rapidement, mais je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent. D'abord, dire qu'il est issu d'une famille de résistants communistes. Son père était membre du groupe Manouchian, je ne sais pas si je prononce bien, et fut déporté à Buchenwald. Sa mère était membre de la manœuvre immigrée, et elle fut seule rescapée d'une famille qui a été exterminée. Alors, je dis ça parce que dans ces moments où la réécriture de l'histoire est tout à fait à la mode, ça vaut le coup quand même de rappeler un tout petit peu, même brièvement à travers une présentation, ce que furent l'activité et l'action des résistants communistes et en particulier ceux qui ont participé à toute cette lutte autour de la main-d'œuvre immigrée. Alors Pierre était professeur de mathématiques, je suppose, puisqu'il dit des maths pures. Hein. Il est actuellement l'un des porte-parole de l'Union juive française pour la paix, donc vous avez quelques petites explications, flyer. Voilà, flyer, maintenant on dit flyer, sur cette Union juive française pour la paix. C'est une organisation, une association qui a été fondée en 1994. C'est une association qui lutte pour la paix, fondée sur l'égalité des droits et la justice en Palestine. Cette association se bat aussi contre le racisme sous toutes ses formes. Bon, Pierre est auteur et co-auteur de plusieurs livres. Vous en avez quelques-uns que vous pouvez vous procurer à l'entrée. Alors, je ne sais pas lequel d'entre eux est là-bas, je n'ai pas bien fait attention. Alors, c'est celui-là, ça s'appelle La Nakba. La Nakba ne sera jamais légitime. Hein, est-ce que je l'avais dans ma liste? Si, qui a été publié chez Acrasi en 2018. Mais il y a aussi Du refus d'être complice à l'engagement, publié en 2014, Une parole juive contre le racisme, publié en 2018, Chronique de Gaza en 2016, Jean de Gaza, témoignage 2011-2016. Donc,
et il y avait le sionisme en question qu'on a enlevé pour ne
effaroucher
personne.
Voilà, pour effaroucher personne. Bon, mais finalement, vous n'êtes pas effarouché, j'ai l'impression. Voilà. Pierre va donc nous exposer le fond des choses. Hein. Je crois qu'on en a beaucoup besoin parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de tabous et de non-dits. Hein. Et faire la clarté sur la réalité politique, économique, sociale, culturelle de la Palestine, c'est pas tous les jours qu'on en entend parler d'une manière, non unilatérale, pour faire simple. Voilà, donc ça a été un choix du CUM de l'inviter, hein, parce qu'on a estimé que ces questions devaient être posées, devaient être discutées, et elles devaient permettre aux militants, y compris, d'avoir sur ces problèmes-là une approche qui soit nettement dégagé, je dirais, de l'idéologie dominante. Donc Pierre, je te laisse la parole, tu as tout le temps que tu veux.
J'ai prévu trois quarts d'heure à peu près.
Trois quarts d'heure, c'est absolument exactement ce qu'il faut. Et puis après, nous passerons aux questions, à la discussion, au point de vue.
Pierre, je vais juste d'abord remercier le CUM de m'inviter. Je vais juste rajouter deux tout petits points à la présentation. Quand l'Union juive française pour la paix se crée en 1994, c'est sur des positions un petit peu narcissiques. C'est pas en mon nom. Nous, on est des juifs propres. On n'a rien à voir avec les exactions et les crimes de l'armée israélienne. Mais très rapidement, on a découvert les mots qu'il faut dire sur cette guerre-là. Et les mots, c'est bien sûr occupation, colonisation, apartheid, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et au terme d'un processus assez long, l'UJFP est maintenant officiellement et ouvertement une association antisioniste, et nous sommes antisionistes en tant que juifs, parce que je vais largement l'expliquer dans ma présentation, le sionisme est un crime contre les Palestiniens et est une atteinte terrible à notre mémoire et à notre identité, et c'est une idéologie pour les juifs totalement suicidaire. J'ajoute sur ma présentation personnelle, puisque je suis dans un cercle marxiste, que je suis moi-même communiste libertaire, donc c'est un petit peu différent, mais communiste. Et d'ailleurs, mon éditeur, c'est aussi des communistes libertaires. Alors, je vais commencer, puisque le titre était « La paix est-elle encore possible ?» C'est assez difficile de répondre à cette question. Disons, les schémas d'aujourd'hui d'une paix, aucun n'est possible. Mais je vais donc démarrer sur la situation actuelle. On a, pas seulement sur la Palestine, un contexte mondial qui est assez terrible. C'est-à-dire qu'on a une prolifération de dirigeants impérialistes, brutaux, racistes, violents, méprisant ouvertement les droits humains. Alors, l'énumération, je vais forcément en oublier, hein, Trump, Netanyahou, Bolsonaro, le roi MBS d'Arabie Saoudite, Modi en Inde, Sisi en Égypte, Orban en Hongrie, Erdogan en Turquie, mais la liste serait évidemment longue. Et puis on a d'autres formes de brutalité comme Poutine ou Assad qui également jouent un rôle dans cette guerre-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les choses ont été masquées pendant un certain nombre d'années. C'était Israël, la seule démocratie du Proche-Orient, le droit international, le processus de paix, que j'appellerais des foutaises. Et puis on n'est plus du tout dans cette période. Trump a renversé la table, il a ouvertement annoncé les choses, la colonisation, l'annexion, le déménagement de l'ambassade états-unienne à Jérusalem, et il a été instantanément imité par ses alliés les plus fidèles. La normalisation d'un certain nombre d'États féodaux, esclavagistes et patriarcaux du Golfe, mais qui sont des vassaux des États-Unis et qui ont immédiatement normalisé leur rapport avec Israël. Pour l'instant, on a les Émirats et on a Bahreïn, mais il n'y a aucun doute que ce qui va suivre derrière, c'est l'Arabie Saoudite, avec l'idée d'un protectorat à la fois Arabie Saoudite et israélien sur le Proche-Orient. Et puis, en Israël même, on est ouvertement dans une période, je vais emprunter les mots de Sylvain Sipel, ancien correspondant du Monde en Palestine, qui maintenant est écrit dans Orient 21, et qui est un antisioniste, et Sylvain dit que les dirigeants israéliens, aujourd'hui, ils urinent du haut du plongeoir, avec l'idée qu'autrefois, ils urinaient dans la piscine, ça se voyait pas trop, c'était des crimes, mais on essayait de les masquer. Aujourd'hui, tout est assumé par la direction israélienne. L'apartheid, avec le vote d'Israël est la nation du peuple juif, mais les pires brutalités, les vols de terre, l'annonce d'une annexion qui devait avoir lieu le 1er juillet dernier, qui n'a pas eu lieu rien que pour des raisons internes à Israël, les vols de terre, la torture qui a été légalisée maintenant depuis de nombreuses années, les arrestations d'enfants, et quand on dit arrestations d'enfants, en Israël, c'est des arrestations d'enfants de 12 ans, et les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, en tout cas très largement contre Gaza, qui a subi trois massacres terribles en l'espace de 6 ans. il y a une institutionnalisation. Ce qu'il faut comprendre derrière ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est que Israël est devenu une espèce de laboratoire de l'enfermement des populations jugées dangereuses, des armes interdites. C'est une institutionnalisation de l'inégalité des droits. C'est une recolonisation qui est assumée après des années, après une époque où le colonialisme se devait d'être masqué. C'est une institutionnalisation aussi du racisme, puisque pour faire court, entre Méditerranée et Jourdain, vous avez 50% de Palestiniens et 50% de Juifs israéliens, mais que les seconds possèdent tout, les seconds et les premiers n'ont aucun droit. Et c'est une institutionnalisation d'un racisme qui, théoriquement, dans le droit international, ne devait plus exister. Je vais passer maintenant à quelque chose qui, souvent dans le mouvement de solidarité à la Palestine, nous a fait perdre un temps fou. C'est la question de l'illusion du processus de paix. On a eu, en septembre 1993, la signature des accords d'Oslo. Alors, dans mon bouquin, j'en parle avec des textes de ce qui a été signé. Oslo a été une gigantesque mystification. Oslo, il faut savoir ce qui a été signé à Oslo. Ce qui a été signé, c'est l'heure d'ouverture des checkpoints. C'est l'État d'Israël reconnaissait l'OLP, mais ne reconnaissait pas un quelconque État palestinien ou de quelconque frontière de cet État. L'OLP, par contre, reconnaissait Israël dans ses frontières de 49-67, c'est-à-dire abandonner, à travers cette signature, de très larges parties du peuple palestinien, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens dans tous les pays où il y a les camps palestiniens, Liban, Jordanie et Syrie, mais beaucoup plus largement, les 60% de Palestiniens, 50% de Palestiniens qui ont quitté la région, qui ont été expulsés, donc ils étaient abandonnés par ces accords d'Oslo, mais même pour ceux qui étaient concernés, c'est-à-dire les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, rien n'a été promis. Il faut savoir que Yitzhak Rabin, qui a été encensé, c'était l'homme qui a dirigé l'attaque contre le QG de l'OLP à Tunis en 1986. C'était l'homme qui, au moment de la première intifada, qui a fait plus de 1000 morts, disait « brisez-leur les jambes » et que il ne devient pas un pacifiste en 1993, puisque dans les 26 mois qui vont séparer la signature des accords d'Oslo de l'assassinat de Rabin en novembre 1995, Rabin installe 60 000 nouveaux colons. Dans quel but et pour quelle paix? Bien évidemment. De toute façon, derrière cette mystification des accords d'Oslo, il y avait l'illusion qu'il existait une gauche sioniste présentable, respectant les droits humains et avec laquelle il était possible de négocier. Cette gauche sioniste, pour moi, c'est un oxymore, hein, c'est comme si on disait gauche de l'apartheid. Il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel elle n'a pas pris une part prépondérante. Il faut savoir que cette gauche sioniste va être majoritaire jusqu'en 1977, la victoire électorale de Menachem Begin, mais avant ça, donc, je ne reviendrai pas, j'en parlerai tout à l'heure, à la période du mandat britannique, mais quand il y a la guerre de 48, le nettoyage ethnique, c'est Ben Gurion qui est aux manettes, et il y a un plan qui s'appelle le plan d'Alet, c'est la lettre D en hébreu, qui prévoyait l'expulsion de tous les Palestiniens, quelque part ceux qui ont pu rester en 48 étaient des miraculés. En 1956, quand il y a l'invasion impérialiste de l'Égypte de Nasser, les troupes franco-britanniques d'un côté et l'armée israélienne de Moshe Dayan de l'autre côté, c'est toujours les travaillistes qui sont au pouvoir. En 67, allez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, le film Le Char et l'Olivier, qui donne des tas d'images d'époque de ce qui s'est passé. Israël n'était pas encerclé, n'était pas menacé. La conquête était déjà prête, elle était en fait dans les tiroirs des travaillistes depuis 1948, et sitôt qu'il y a la conquête, il y a l'annexion de Jérusalem, et ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont les travaillistes qui vont initier la colonisation, ce n'est pas la droite révisionniste qui va le faire, c'est Yigal Alon, ministre travailliste, qui avait déjà pris une large part dans le nettoyage ethnique de 1948, et c'est lui qui va initier les plans de colonisation, avec y compris ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'annexion de la vallée du Jourdain était déjà prévue à l'époque, etc. Toujours sur les travaillistes, avec Rabin, vous avez Shimon Peres, qui finira dans les bras de ses ennemis comme allié de Sharon. Enfin, Shimon Peres, comme pacifiste, c'est évidemment quelque chose qui fait frémir. En Israël, il se raconte des histoires sur Shimon Peres, qu'il avait même triché pour être élu délégué de classe. Mais voilà, Shimon Peres, c'est celui qui va briser immédiatement après Oslo tout espoir que ça se passe bien. Il fera assassiner le Hayash, qui était un des dirigeants du Hamas à Gaza. Il enverra ses bombes sur le village de Cana au Liban, et très naturellement les travaillistes perdront pouvoir, et c'est comme en France, l'électeur préférera l'original à la copie, et c'est l'extrême droite qui va venir au pouvoir. Mais même après, les travaillistes sont souvent dans des coalitions avec la droite. On trouve encore des dirigeants travaillistes, Amir Peretz pour l'invasion du Liban en 2000. On les trouve Ehud Barak pour le premier grand massacre à Gaza, plomb durci. On trouve Fouad Ben Eliezer, secrétaire général du Parti travailliste, à la construction du mur. Donc toute espèce d'illusion qu'il existait une gauche sioniste, elle est fausse. Et donc j'essaierai d'en venir au fait que, de même qu'il était impossible en Afrique du Sud qu'il y ait une paix juste avec l'apartheid, il n'y aura pas de paix juste avec le maintien du sionisme. Ayez bien ça en tête, j'y reviendrai très souvent dans mon exposé. Du côté des Palestiniens aussi, les accords d'Oslo sont une véritable catastrophe. C'est-à-dire qu'avant Oslo, il y a l'OLP, dans lequel on retrouve toute la diversité des Palestiniens, diversité idéologique et diversité géographique et diversité de situation. Il y a tous les partis politiques, il y a les représentants des territoires occupés, des camps palestiniens, et tout ça, ça va être liquidé par une espèce de machin fantoche qui s'appelle l'autorité palestinienne, et dont on voit bien aujourd'hui que sous occupation, elle fait la seule chose qu'elle a signée à Oslo, c'est-à-dire assurer la sécurité de l'occupant en pourchassant les opposants, mais elle n'a évidemment strictement aucun pouvoir et elle ne joue aucun rôle. Je vais revenir maintenant, parce que c'est impossible de comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne fait pas un retour dans l'histoire. Vous savez que les sionistes ont présenté la création d'Israël comme nous avons été chassés de notre pays il y a 2000 ans et grâce au sionisme nous rentrons chez nous. Alors Shlomo Sand a beaucoup écrit là-dessus, il a repris pas mal de thèses qui existaient depuis assez longtemps, mais en gros, il est maintenant avéré, sauf des historiens qui aimeraient falsifier l'histoire, qu'il n'y a pas eu d'exil des Juifs, que la religion juive était une religion largement prosélyte très tôt. Il y a des tombes juives à Rome en 150 avant Jésus-Christ. Il y avait des juifs en Espagne, en Tunisie, dès cette époque-là. Philon d'Alexandrie, tout ça, c'est bien avant la destruction du temple. Alexandrie était une ville au tiers juive. Donc la religion juive était une religion prosélyte. Il y a eu, au moment de l'avènement du christianisme, une forte persécution contre les juifs. La plupart des juifs se sont convertis au christianisme, mais pas tous. C'est à ce moment-là que le judaïsme se referme sur lui-même. Il a continué à y avoir des conversions de masse au judaïsme, notamment en Afrique du Nord, et très largement les juifs maghrébins sont des descendants de berbères. Il y a un excellent bouquin que je vous conseille qui vient de sortir et qui s'appelle « Berbères juifs » là-dessus, de Julien Cohen à Cassagne. Et en ce qui concerne les Ashkénazes, puisque moi-même je suis Ashkénaze, mes parents viennent d'un pays qui n'existe plus, la Bessarabie, c'est partagé aujourd'hui entre la Moldavie et l'Ukraine, les Ashkénazes sont probablement en assez grande partie descendants de l'Empire Khazar, qui était un empire dont l'aristocratie était turque et la population slave, pendant environ 3 ou 4 siècles, entre le 7e et le 10e siècle, entre mer Noire et mer Caspienne. Donc aujourd'hui, il faut le savoir, les Juifs sont très largement des descendants de convertis, vous voyez, j'ai pas vraiment le type proche oriental, et les descendants des Judéens de l'Antiquité, c'est très largement les Palestiniens. Donc derrière cette affaire coloniale dont je vais parler, il y a une énorme mystification de l'histoire et de la mémoire. Évidemment, tout ce dont on parle aujourd'hui n'aurait pas existé sans la question de l'antisémitisme. Alors, sur l'antisémitisme, il faut bien comprendre une chose. Au début, pendant 15 siècles, il est plus juste de parler de l'antijudaïsme chrétien. C'est les chrétiens qui vont inventer, au moment où ils l'emportent à la fin de l'Empire romain, contre les juifs, toute une série de stéréotypes racistes, le peuple déicide, la volonté de dominer le monde, et qui vont surtout interdire dans le monde chrétien aux juifs toute une série de métiers, et qui vont, donc les juifs vont faire les métiers interdits aux chrétiens, l'usure, la banque, etc., ce qui va évidemment les rendre un peu plus impopulaires. Il y aura dans le monde chrétien toute une série de massacres qui vont commencer avec la première croisade. Avant de tuer les infidèles, elle a commencé à tuer les juifs de la vallée du Rhin. Et à partir de la fin du Moyen-Âge, il commence à y avoir assez systématiquement des spoliations, des expulsions. La France, en plusieurs fois, va expulser ses juifs, et il n'y aura pratiquement pas de juifs, sauf dans les endroits qui ne sont pas français, Avignon ou Bayonne ou Strasbourg, pendant plusieurs siècles. Également, il faut comprendre que dans l'antijudaïsme chrétien, les juifs, sauf exception, n'avaient pas le droit de posséder la terre, et donc se retrouvaient dans des situations d'être colporteurs, artisans et tout. Et puis, à partir du XIXe siècle, on va passer de l'antijudaïsme chrétien à l'antisémitisme racial. Les juifs ne sont pas les seules victimes de cette période-là. C'est la grande époque du colonialisme. C'est une époque où les anthropologues commencent à théoriser l'idée qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Parmi les races les plus inférieures, bien sûr, il y a les Noirs. J'espère que vous avez vu sur Arte cette émission sur les zoos humains, où on voit comment l'homme blanc a traité les Noirs et les Arabes et les Kanaks, etc., pendant plusieurs siècles, si on peut dire. Et les Juifs vont être victimes de cette hiérarchisation et cette théorisation des races. À cette époque, la grande majorité des Juifs vit dans un seul pays, c'est l'Empire russe. Et contrairement à toute l'image qu'on a du Juif banquier, etc., dans l'Empire russe, les Juifs sont très majoritairement des prolétaires, colporteurs, ouvriers. Et il va y avoir, c'est dans l'Empire russe et dans l'Europe centrale, que vont naître les mouvements politiques qui vont être à l'œuvre. Alors en gros, je vous conseille là-dessus, puisque je suis chez les marxistes, lisez à fond Enzo Traverso, les marxistes et la question juive, où il développe énormément toute cette période. Il y a en gros, à la fin du XIXe siècle, trois grands courants chez les juifs. Il y a les religieux, qui sont affaiblis, alors les haredim, on les appelle, les orthodoxes, et qui pour des raisons religieuses seront antisionistes. Parce que dans la religion juive, le peuple élu, ça veut dire celui qui a plus de devoirs que les autres et pas celui qui a le plus de droits. L'an prochain, Jérusalem, ça veut dire mes pensées vont vers Jérusalem, comme celles des musulmans vont vers la Mecque. Mais ça ne veut pas dire j'établis un état juif et j'en chasse les autochtones. Et il y aura, par exemple, quand le sionisme apparaîtra, une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre Herzl et contre le sionisme. Si le premier congrès s'est tenu à Bâle et pas à Munich, c'est pour ces raisons-là. Une deuxième grande aile, sans doute majoritaire chez les juifs, aussi bien en Allemagne-Autriche qu'en Europe de l'Est, ce sont tous les différents courants socialistes. Alors il faut comprendre que les juifs vont assez massivement abandonner la religion. En Russie, l'abandon de la religion et le mélange avec des non-juifs, ils commencent dès les premiers pogroms de 1880, pour une raison que dans la religion juive, il était interdit de combattre l'ordre établi. Et donc les rabbins, dans mon éducation, ma mère me disait, elle ne disait pas les chrétiens, elle disait les pogromistes, et elle ne disait pas les rabbins, elle disait les collabos. Et elle disait ça parce que les rabbins disaient, il ne faut pas combattre l'ordre établi, donc c'est très souvent pour se défendre contre les pogromistes que beaucoup de juifs ont abandonné la religion et se sont tournés vers le socialisme. On va trouver des juifs en très grand nombre dans tous les courants socialistes en Europe centrale et en Europe de l'Est. En Russie, il y en aura chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les socialistes révolutionnaires, chez les anarchistes. Et il y aura un parti socialiste juif, le Bund, qui était partisan de l'autonomie culturelle, c'est-à-dire les droits nationaux sur place sans territoire. Et le Bund sera jusqu'à sa disparition avec le génocide nazi, très fortement anti-sioniste aussi. Le Bund fera des milices contre les pogroms et les fera avec succès, puisque j'ai deux grands-mères qui sont survivantes du pogrom de Kishinev. Après le pogrom de Kishinev, il n'y a plus de grand pogrom dans l'Empire russe, parce qu'il y a les milices d'autodéfense du Bund. Et puis il y a les sionistes. Alors le Bund disait des sionistes, c'est le parti de la bourgeoisie. Et c'est incontestablement vrai, vous voyez qui sont ses fondateurs. Mais Herzl, il n'était pas seulement un grand bourgeois viennois né à Budapest. Quand on lit ce qu'il a écrit, il a des propos antisémites incroyables. C'est-à-dire qu'il partageait avec les antisémites de l'époque les pires préjugés sur les Ostjuden, les juifs de l'Est. Et comment on pourrait caractériser le sionisme ? On avait cette discussion tout à l'heure. Je dirais avant tout le reste, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire que à la fin du XIXe siècle, c'est vrai, à une époque où il y a un antisémitisme galopant et qui est en train de devenir hégémonique en Europe, ils décident, ils disent, juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui en Israël-Palestine si vous n'avez pas cette idée-là. C'est une théorie de la séparation. Mais alors du coup, ils vont être complètement absents des luttes contre l'antisémitisme que menait le Bund, que menaient les socialistes, que menaient en général tous les progressistes avec au moment de l'affaire Dreyfus et tout. Et les sionistes vont, Herzl en tête, vont aller démarcher tous les dirigeants antisémites de l'Europe en leur disant « Vous et moi, et nous, nous avons un intérêt commun qu'un maximum de juifs quittent l'Europe. » Donc, dans cette idée aujourd'hui qui est inventée, Israël défend les Juifs, non, il ne les défendait pas, il leur demandait de foutre le camp, et il leur demandait de se séparer de la culture et des voisins avec lesquels ils avaient toujours habité. Herzl, il y a deux événements qui sont prépondérants dans sa vie militante, il va mourir très tôt, c'est le pogrom de Kishinev, mais le pogrom de Kishinev sera le dernier, j'ai expliqué que le Bund avait fait des milices après. Et c'est l'affaire Dreyfus. Mais l'affaire Dreyfus n'est pas l'affaire des Juifs. C'est l'affaire de toute la partie progressiste de la société française. Et en fin de compte, même si Dreyfus en a bavé, ça se termine par une victoire quand même. Donc, il n'y avait rien dans les deux prétextes d'Herzl qui justifiait cette théorie de la séparation. Et puis, en 1900, le colonialisme est totalement hégémonique en Europe et dans le monde. Et donc, très logiquement, les sionistes vont prôner une idéologie colonialiste. C'est au troisième congrès qu'ils vont choisir que c'est en Palestine qu'on fera l'État juif. Ils le choisissent en espérant avoir l'appui des religieux. Ils ne l'auront pas pour les raisons que j'ai dites, parce que la religion juive était contre l'idée d'un État juif. Mais ils vont décider que c'est la Palestine. C'est un colonialisme très particulier, le colonialisme sioniste, à la différence du colonialisme français ou britannique, par exemple en Afrique. Ce n'est pas un colonialisme qui vise à asservir le peuple autochtone, c'est un colonialisme qui vise à l'expulser et à le remplacer. Il faut que vous ayez dans la tête que 40 ans ou 50 ans avant Auschwitz et avant la création de l'État d'Israël, les sionistes ont créé en Palestine un État qui existait littéralement. La banque coloniale juive, celle qui prend tous les fonds pour coloniser la terre, elle est fondée en 1898, elle porte déjà bien son nom. Le KKL, Keren Kayemet l'Israël en hébreu, le Fonds National Juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, celui dont l'article numéro 1 des statuts c'est de judaïser la terre, il est fondé en 1901. Et puis, dès qu'il y aura le mandat britannique, on va aller plus loin, c'est le syndicat, puisque je suis ici à la CGT, qui appartient plus à la FSM, mais qui appartient à une internationale dans laquelle on retrouve la Histadrut. La Histadrut, syndicat sioniste, est fondée en 1920. L'article numéro 1 de ses statuts, c'est la défense du travail juif. Vous imaginez si la CGT avait comme article numéro 1 de ses statuts la défense du travail français. Et les premières actions qu'elle va faire, c'est une grève générale. Acheter juifs, boycotter les magasins arabes, cette grève a lieu dès 1921. Et c'est de la Histadrut que vont naître toutes les institutions qui vont créer plus tard l'État d'Israël. La compagnie Zim de navigation, c'est la Histadrut. La compagnie Mekorot des eaux, celle qui maintenant facture aux Palestiniens leur propre eau quand elle la leur donne, elle est fondée par la Histadrut. La banque Apoalim, elle est fondée par la Histadrut. La compagnie de bus et guide, elle est fondée par la Histadrut. En gros, l'ossature de ce que serait la Haganah, l'armée est fondée par l'Aïstaout. Ce qui va être l'ossature de l'État israélien va exister dès le début du mandat britannique avec la déclaration Balfour, et ce sont des institutions sionistes qui le créent. Le sionisme est aussi un nationalisme, parce qu'on est à une époque de l'explosion de tous les nationalismes européens. Il a tous les travers des nationalismes polonais qui veulent un État polonais avec personne d'autre que les Polonais, les nationalistes serbes, lituaniens, slovaques et j'en passe. Mais il a quelque chose de pire quand même que tous ces nationalismes. C'est qu'il existait quand même une terre où les Polonais étaient majoritaires ou une terre où les Serbes étaient majoritaires. Il n'y a aucun endroit dans le monde où les Juifs forment plus de 10% de la population. C'est à peu près ce qu'ils forment dans l'ancienne zone de résidence de l'Empire tsariste. Donc le nationalisme sioniste va inventer le peuple, la langue et la terre. C'est quand même pas rien. Il va décréter qu'il y a un peuple juif. Je vous ai dit qu'on n'était pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. Il y a des peuples, il y avait un peuple yiddish, incontestablement, il y avait un peuple judéo-arabe au Maghreb, incontestablement. Il y avait un peuple falacha, mais ils ignoraient même que ça existait à l'époque. Et dire que tout ça, ça appartient au même peuple que les juifs yéménites, ça me paraît une construction historique complètement discutable. Donc ils inventent le peuple, ils inventent la langue, parce qu'il y avait des langues juives, il y avait le ladino parlé par les séfarades, il y avait le judéo-arabe, il y avait le yiddish, mais l'hébreu était réservé uniquement à des fins religieuses. Et puis ils inventent la terre, parce que si l'an prochain Jérusalem, on pense à Jérusalem, pour les juifs religieux, il était interdit d'aller sur cette terre avant le retour du Messie, et pour les juifs laïcs, il s'agissait de faire la révolution ou d'obtenir l'émancipation sur place. Donc c'est un nationalisme quand même extrêmement particulier. Ce que je peux dire aussi sur le sionisme, il fait franchir le miroir aux juifs. Les juifs étaient, si je reprends la parole des antisémites, des parias asiatiques inassimilables en Europe. Et le sionisme, avec la complicité du colonialisme britannique, va en faire des colons européens en Asie. Alors sur cette complicité qui va durer une vingtaine d'années avec l'impérialisme britannique, il faut quand même savoir que Balfour, l'auteur de la déclaration Balfour, était un antisémite. Il avait été Premier ministre en 1905 avec des déclarations très dures contre les juifs pouilleux de Londres qui venaient semer la révolution. Quand il envoie sa belle lettre à Lord Rothschild, qui est un choix aussi pas tout à fait neutre, et qu'il donne, il n'a pas encore conquis la Palestine, mais il donne aux sionistes un foyer qui deviendra plus tard un État, il n'y a pas de contradiction. Pour les antisémites, les juifs étaient indésirables en Europe, mais s'ils partaient en Asie pour les services de sa gracieuse majesté, c'était parfait. Les Britanniques vont installer un mandat avec la complicité de la Société des Nations. Alors ça aussi, Elias Sambar en parle dans le film Charles et l'Olivier. La Société des Nations confie les mandats du Liban et de la Syrie à la France, de la Transjordanie, de l'Irak et de la Palestine à la Grande-Bretagne, en disant que ces peuples devront tôt ou tard être indépendants, mais qu'ils sont trop sous-développés, ils ne sont pas assez mûrs pour l'instant, ils ont besoin d'un soutien. C'était quand même les mots à peu près qui vont être utilisés à ce mandat. Les Britanniques installent les sionistes aux manettes. Le premier commissaire britannique, c'est Herbert Samuel, il est sioniste. Et en gros, cet État va exister dès le début. La réaction des Palestiniens va être... Les Palestiniens, et encore aujourd'hui, nous on a une grande expérience, notamment à Gaza, d'aller en Palestine, ils nous disent toujours, on a toujours vécu avec les Juifs, c'était nos voisins, on n'a pas de problème avec les Juifs en tant que Juifs, on a le problème avec la colonisation, et cette colonisation, ça va commencer très 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 tôt, c'est-à-dire que le colonialisme sioniste, c'était acheter la terre à des féodaux absents pour expulser les métayers présents. Et donc il va y avoir les premières grandes grèves dans lesquelles chrétiens et musulmans vont jouer des rôles tout à fait similaires en Palestine. Première grande grève dès 1920, la grande révolte de 1929, et puis surtout la très grande révolte de 1936 qui va être réprimée par les Britanniques et il y aura 12 000 morts. Et une des raisons de la défaite palestinienne 12 ans plus tard en 1948, c'est en gros que leurs élites ont été complètement décimées par les Britanniques. Je continue sur l'histoire. Le génocide nazi, bon, Michel a expliqué que c'était un peu mon histoire intime. Il y a eu une résistance juive au sionisme. C'était la MOI, on en a parlé, c'était le Bund. Mais les sionistes n'ont joué qu'un rôle tout à fait confidentiel dans la résistance juive au nazisme. Et même, un assez grand nombre de dirigeants sionistes ont collaboré. Alors, je n'ai pas le temps de tout développer, mais dans mon bouquin, il y a tout un passage, documents à l'appui. Je développe ce qu'ont été les accords de Havara, les accords de transfert des juifs allemands vers la Palestine. Eichmann était un des superviseurs. Je développe comment, en 1942, à Bitmore, quand il y a la conférence sioniste internationale, la résolution finale, c'est pas « nous allons mettre tous nos moyens pour abattre Hitler ». La résolution finale, c'est « nous reconstruirons un État juif sur l'ensemble de la Palestine ». Je développe comment les révisionnistes, puisqu'il y a un courant d'extrême droite qui va apparaître dans le sionisme en 1920, son fondateur est Jabotinsky. Les révisionnistes ont été dès le début des fascistes. Jabotinsky était en Italie, sa radio était à Civitavecchia, le Bétard, ses troupes venaient s'entraîner dans l'Italie fasciste. Mussolini, quand il rencontrait des dirigeants, il disait aux Juifs, mais vous avez un excellent dirigeant, votre fasciste Jabotinsky. Et aujourd'hui, ce sont les disciples de Jabotinsky qui sont au pouvoir, les Netanyahou et avant eux, les Sharon, les Begin, les Shamir et tout. En pleine guerre, Shamir, qui dirigeait le groupe Stern, va assassiner des soldats et des dignitaires britanniques alors que l'extermination battait son plein en Europe. L'assassinat de Lord Moyne, le haut commissaire britannique au Caire, c'est 1944. Alors, j'ai rien contre le fait de s'en prendre à des représentants du colonialisme, mais assassiner un dignitaire britannique quand les chambres à gaz et les camps d'extermination battent leur plein, c'est un acte de collaboration. Et donc, les dirigeants aujourd'hui d'Israël sont les descendants idéologiques de collabos. Il faut quand même être extrêmement clair sur cette situation. J'essaie d'avancer. La création de l'État d'Israël. Souvent, on nous envoie dans la figure, alors vous, antisionistes, vous niez la légitimité de l'État d'Israël, vous voulez jeter les Juifs à la mer. La légitimité de l'État d'Israël, il n'y en a aucune. Il faut être clair là-dessus. L'État d'Israël n'existerait pas sans ce qui l'a rendu possible, c'est-à-dire la Nakba, la catastrophe en arabe, c'est-à-dire le nettoyage ethnique dont tous les documents montrent qu'il était programmé en 1948. Et donc, il n'y a pas de légitimité de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire les Juifs à la mer ? J'ai aussi un chapitre entier dans mon bouquin pour expliquer au contraire que ce qui a permis aux Blancs sud-africains de rester, c'est la fin de l'apartheid, et ce qui permettra aux Juifs israéliens de rester, c'est la fin du sionisme. Donc cet État-là, il n'a pas de légitimité dans sa création. Il n'aurait pas existé sans le génocide nazi, alors que j'ai expliqué que le sionisme en tant qu'idéologie n'a pas joué de rôle dans la résistance au nazisme. Quelque part, il y a une espèce d'injustice majeure. Après le génocide nazi, ce n'est pas un sentiment de culpabilité qu'il y a en Europe et chez les dirigeants du monde. S'il y avait eu un sentiment de culpabilité, ça aurait été, bon, les Juifs, on a déconné, 6 millions de morts, maintenant, vous avez l'égalité des droits. Le discours n'a pas été celui-là. Le discours, ça a été, maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. C'est-à-dire que ce qui se passe en 1938, quand les Juifs sont chassés d'Allemagne, il y a une conférence internationale à Évian, dont le bilan c'est « on ne fait rien, qui crève ». C'est à peu près ce qu'on dit aujourd'hui sur les migrants qui crèvent en Méditerranée. On l'avait dit sur les Juifs en 1938. Et en 1945, c'est toujours pas, les États-Unis n'acceptent que l'élite, que les grands scientifiques et tout, mais pour les autres, la seule destination possible, c'est la Palestine. C'est-à-dire que cette entité qui existe en Palestine, elle va se retrouver avec des centaines de milliers de réfugiés qui vont arriver, mais qui vont arriver parce que l'Europe antisémite se débarrasse de ses juifs sur le dos des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une injustice majeure dans la création de l'État d'Israël, mais il n'y a pas du tout la réparation de l'antisémitisme. Et quelque part, les amitiés que vous avez aujourd'hui de Netanyahou avec les pires antisémites, avec les Bolsonaro, avec les Orban et tout, elles résultent d'une certaine façon de ce qui se passe en 1948. Ce n'est pas un acte de contrition vis-à-vis de l'antisémitisme, c'est maintenant, il y en a marre, ça fait 1000 ans que vous nous emmerdez, maintenant allez là-bas il y a des Arabes, vous vous en occupez et vous allez le faire. L'État d'Israël va se créer avec un racisme institutionnel. il se crée comme un État juif, il se crée avec un plan délibéré d'expulsion de tous les Palestiniens, et là il y a des choses incroyables. C'est-à-dire que l'ONU va voter un texte qui est la résolution 194, qui stipule que les Palestiniens qui sont partis, souvent avec la clé de leur maison, peuvent rentrer chez eux. Que fait immédiatement Israël ? Elle interdit ce retour, elle promulgue une loi, la loi des présents absents, qui lui permet de prendre toutes les terres qui ont été palestiniennes, parce que les occupants, pour éviter de se faire trucider, sont partis. Et elle commence une destruction systématique. C'est entre 500 et 700 villages palestiniens qui seront détruits, avec la volonté affichée d'enlever les traces de la Palestine, de changer le nom des villes, de changer le nom des rivières, de changer le nom des montagnes. En gros, de dire, quand Shlomo Sand a écrit « Comment fut inventé le peuple juif », il y a un obscur Horowitz à Tel Aviv qui a écrit « Comment fut inventé le peuple palestinien ». C'est-à-dire que dans ce qu'on apprend en Israël, les Palestiniens, ça n'existe pas. Les Turcs avaient ramené ici des Algériens, des Bosniaques, des Albanais et tout, ils ont mélangé tout ça, mais c'est pas des autochtones, donc c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, on avait le droit de s'installer là. Mais ça va être quelque part institutionnalisé dans la façon de changer complètement l'histoire qui commence en 1950. Et puis les lois vont faire que si on est juif, on a cette fameuse loi du retour, qui veut dire que moi même... si pour l'instant je suis probablement interdit de séjour en Israël, si je veux faire mon alia, ils ne peuvent pas m'en empêcher, c'est dans la loi, mais qu'un Palestinien, on l'expulse de chez lui, et Salah Hamouri, qui est né à Jérusalem, il est en instance d'expulsion du pays dans lequel il a toujours vécu. C'est donc une entreprise coloniale qui va créer l'État d'Israël. On va faire venir des prolétaires... du monde arabe, parce qu'il manquait de prolétaires et que l'État d'Israël était relativement vide après l'expulsion de tous les Palestiniens. Et on va créer de toutes pièces, par la colonisation, un État d'où les autochtones ont été expulsés. Alors on va me dire pas tous. C'est vrai qu'il est resté à peu près 10% de la population palestinienne en 1948, c'est maintenant 19 à 20%. Ce sont des miraculés. Ils ont vécu sous la loi militaire jusqu'en 1966, sous le couvre-feu. Ils ont encore énormément de villages interdits en Galilée, mais surtout en ce moment dans le désert du Negev, où systématiquement les Israéliens détruisent des villages bédouins pour créer des villes juives. Ce racisme est dans la loi. Alors, c'est allé plus loin en 2018, puisqu'Israël a voté « Israël est la nation du peuple juif ». Ou carrément, dans cette loi qui devient une loi constitutionnelle, il y a le fait que les colonies sont un élément de beauté et d'agrandissement du pays, et le fait que la langue arabe cesse d'être une langue officielle. Donc voilà, on est complètement dans une société ethnico-religieuse. Et puis, évidemment, tout ça, ça s'est accompagné d'une irrésistible montée du courant révisionniste à l'intérieur du sionisme. Alors il y a eu au début l'illusion du kibbutz. Moi-même, j'étais sioniste dans mon enfance, j'ai travaillé en kibbutz. On peut se poser, comme on est chez les marxistes, j'en profite, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce socialisme pour juifs seulement ? Parce que dans un kibbutz, si un kibbutznik avait l'idée tordue de tomber amoureux d'une palestinienne, ils étaient... expulsés instantanément les deux du kibbutz. C'était un kibbutz uniquement pour juifs. Où est-ce qu'on les a installés ? On les a installés dans le désert du Negev ou sur toutes les zones frontières, en Galilée notamment. C'était un instrument de conquête, c'était un instrument de judaïsation de la terre. Et aujourd'hui, ben, évidemment, dans le libéralisme, les petits morceaux de socialisme ne tiennent pas longtemps. Donc les kibbutz ont privatisé les cantines, sont cotés en bourse, et l'activité agricole est maintenant très largement minoritaire par rapport à la fabrication de gilets pare-balles ou de munitions. Alors je vais terminer un peu. Qu'est-ce qu'on a dans cette situation très noire comme perspective ? La première qui me rend, malgré tout ce que j'ai pu dire, pas pessimiste, c'est les Palestiniens. C'est-à-dire que les sionistes avaient pour but que la Palestine deviendrait comme ce qui s'était passé avec les Indiens des États-Unis ou les aborigènes d'Australie, que les autochtones soient dans une telle situation de domination qu'ils seraient incapables de quémander leurs droits. Ils y sont allés très fort avec les Palestiniens. Savoir quand même que 850 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. J'en profite pour vous dire quand même que le prisonnier le plus ancien, il y en a un en Israël qui s'appelle Barghouti, c'est pas... Et puis l'autre, il est en France. C'est Georges Ibrahim Abdallah, ne l'oubliez pas. Donc, ils ont inventé contre les Palestiniens des choses absolument terribles. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à ce que la société palestinienne s'écroule. Elle plie. C'est très dur. Nous, on est en relation quotidienne avec nos amis de Gaza, où on a eu la chance de pouvoir aller en 2016. On est les derniers militants internationaux à avoir pu rentrer dans Gaza. Ben, même à Gaza, et encore plus en Cisjordanie, les Palestiniens envoient leurs enfants à l'école. Il n'y a pas d'illettrisme. À Gaza, les études sont gratuites entre l'âge de 6 ans et le baccalauréat. Mais avant, il y a une floraison de petites associations qui assurent l'éducation avant, qui assurent la maternelle, les crèches. Il y a une série incroyable de petites associations qui permettent de produire, de mutualiser ce qu'on a. Il y a des très grosses associations qui défendent les droits de l'homme, y compris à l'intérieur de la société palestinienne, et les droits de la femme, bien évidemment. Il y a des paysans qui se battent coûte que coûte pour que partout où il y a la terre, on puisse continuer à produire. Et là, on vous invite, on a un très gros projet de coopération avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza. Vous pourrez prendre les documents. On vous invite vraiment à collaborer avec ça. Les pêcheurs continuent, même sous les balles, à continuer à pêcher. Les deux derniers morts, ce n'est pas les Israéliens, c'est les collabos égyptiens qui les ont tués. Les deux derniers pêcheurs qui ont été tués il y a 3 jours. Et puis, il y a 100 000 étudiants à Gaza, dans 6 universités. Il faut payer. Les familles se saignent pour que les enfants étudient. Après, il y a le chômage, il n'y a pas de travail. Ça ne fait rien. Ils mettent au service de la société ce qu'ils ont appris. La société ne s'écroule pas là-dessus. Donc, une des premières choses dans la perspective de ce qu'on peut avoir, c'est soutenir la société de Gaza pour qu'elle ne s'écroule pas. Et quand je dis la société de Gaza, je ne parle pas des partis. La division palestinienne, c'est une gigantesque victoire de l'occupant. Nous, on a rencontré tous les dirigeants politiques à Gaza de tous les partis. On ne voit pas de solution à terme à cette division. Mais bon, c'est la société civile qu'il faut, dans toutes ses strates, qu'il faut aider. Et l'autre espoir qu'on peut avoir, c'est que ce qui permet à Israël de tenir, c'est que depuis 50 ans, ce n'était pas le cas dans ce que j'ai raconté avant, depuis 50 ans, Israël est devenu un pion de l'impérialisme américain, mais un pion qui dicte sa loi sur tout ce qui peut concerner la politique proche-orientale, pas le reste. Mais la colonisation, c'est entièrement, les décisions sont prises à Jérusalem, elles ne sont pas prises à Washington. Mais c'est le soutien indéfectible, politique, militaire, économique des États-Unis qui permet que cette barbarie continue. Et c'est la politique totalement éhontée de l'Europe et de la France qui encourage tout ça. Parce que je veux dire que l'Europe criminalisant l'antisionisme, donnant la définition sioniste de l'antisémitisme, la France essayant de criminaliser le BDS, le boycott des investissements sanctions, et fort heureusement la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour cette infamie-là. Tout ça, c'est Macron n'arrêtant pas avec du cher Bibi invitant Netanyahou pour l'anniversaire de la rafle du Veldiv. Enfin, quelle infamie. La rafle du Veldiv, c'est les pétainistes aujourd'hui, et les pétainistes, c'est Zemmour. C'est l'ami de Netanyahou invité à la rafle du Veldiv. Pour nous, c'est une injure absolument grotesque. Donc, cette complicité-là, c'est nous qui tenons la clé. Les Palestiniens nous le disent. Les Palestiniens nous disent, cette guerre, elle est née de l'extérieur, elle est née de l'antisémitisme européen, elle est née de la décision de l'ONU de reconnaître Israël alors qu'il violait toutes les résolutions fondamentales. Et donc c'est vous qui devez être suffisamment fort pour obliger vos gouvernants à changer de politique et à faire respecter le droit. Je terminerai en disant le droit à l'ONU, c'est pas pareil. Je connais dans le milieu syndical des gens dont la religion est devenue l'ONU. L'ONU, c'est la loi du plus fort. L'ONU, c'est quand même lui qui a créé l'État d'Israël, avec un vote grotesque qui était le vote de la partition, et avec une reconnaissance d'Israël alors qu'elle violait le droit. L'ONU, c'est encore Antonio Guterres qui enterre un rapport de Richard Falk et Virginia Tele expliquant qu'Israël est un État d'apartheid. Donc non, c'est le droit que nous devons faire respecter. Les Palestiniens ne demandent pas grand-chose. L'appel palestinien au BDS, au boycott des investissements sanctions, il demande trois choses. Il demande liberté, égalité, justice. Liberté, ça veut dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. Égalité, ça concerne les Palestiniens d'Israël, ça veut dire fin des lois d'apartheid, égalité des droits entre Palestiniens. Et justice, c'est le droit au retour des réfugiés, puisque le crime fondateur a été un nettoyage ethnique. Je terminerai en disant que nous, en tant que juifs, c'est un truc très douloureux, parce que le crime se fait en notre nom. Mais ce qui est arrivé aux juifs et ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est la preuve qu'il n'y a pas un seul peuple qui est exempt d'une dérive fasciste. Quand je dis fasciste, c'est Zev Sternel, historien israélien, qui a parlé de la fascisation de l'État d'Israël. Et je vous assure que pour tous ceux qui ne sont pas juifs, l'État d'Israël est un État fasciste dans les limites Méditerranée-Jourdain. Donc voilà, on a un devoir d'aider les Palestiniens et de contrer la politique des complices. C'est à nous de le tenir. Merci.
Luigi, c'est toi qui vous parle.
Bien, merci beaucoup pour cette parole très complète, très juste. J'espère qu'au fond on entendait, parce que maintenant avec les... voilà, donc nous avons un temps de discussion, de débat. Est-ce qu'on prend une question à la fois ou plusieurs questions?
Je prends une ou deux, pas plus,
parce que souvent... D'accord. Alors, oui.
Moi, je voulais juste te dire, j'ai fait un interview de Maxime Rodasson, qui nous parle des Khazars, qui nous parle comment les pays se sont convertis au judaïsme à une certaine période de l'histoire. On n'avait pas le sens de la race. Bon. Et par exemple, quand on était grand médecin sous l'Empire ottoman, d'abord l'Empire adorait les grands médecins juifs. Donc si on voulait être médecin, on se convertissait au judaïsme et on avait tout de suite... Bon, il y a plein de choses comme ça. Et Maxime Rodasson, on s'entendait très bien. J'ai fait, mais vraiment filmé avec chef opérateur et tout. Je ne vous dis pas, M. Adler, qui était à Arte, a tout fait pour que les émissions ne passent pas. Si un jour ça vous intéresse, j'ai les films, on peut entendre ces interviews, etc. Je n'ai jamais pu faire passer ces interviews de Maxime Rodin.
Je voulais juste répondre là-dessus. Ça va vous faire plaisir. Le JFP est en train de finaliser un livre qui va être toute une série de paroles juives contre le sionisme sur 120 ans. Et il y a évidemment, Maxime Rodasson est évidemment dedans, mais au milieu d'Anna Arendt, de plein d'autres, et justement par période, avec toutes les périodes. Et moi, sur Adler, j'étais avec lui au lycée Louis le Grand. Il était à l'époque Parti communiste. Donc il fait partie quand même de tous ceux qui ont... virer Kazakh pour partir entièrement dans les bras de l'impérialisme avec une... plus, il est parfois particulièrement stupide dans sa façon. Mais enfin, ça me fait de la peine parce que c'est le neveu de Walter Hormann qui était le dirigeant des brigades internationales roumaines pendant la guerre d'Espagne. C'est le cousin de Petre Hormann au moment de la chute de Ceausescu. Et bon, voir ce qu'il est devenu, c'est quand même un peu... Voilà.
Autre chose aussi, ça vous intéresse? Bon, je suis une des rares françaises d'avoir vécu avec une grande tribu d'Arabie. Et je me rappelle que dans les années, moi, la première fois que j'étais à Damas, en 59, nous les étudiants, je faisais une thèse à Damas, en plus à un moment, Je me rappelle, personne ne s'occupait de savoir, on faisait du théâtre, si vous étiez juif, chrétien ou musulman. C'est inénarrable. Quand la première fois que j'étais à Jérusalem, il y a une copine qui me dit « Oh, tu vas là, à la sortie de la Via Dolorosa, il y a un restaurant arabe là qui fait les meilleurs gâteaux, c'était une juive. » Or, je peux vous dire que les copains qui sont en France et qui avaient des très bons commerces à Alep ou à Beyrouth, qui sont juifs, ils sont tous partis. Parce que quand ils sont arrivés une fois ou deux à Jérusalem, dans les années 50 et surtout après, on les détestait parce qu'ils avaient des gueules d'arabes. Quand vous voyez les dessins des gens qui sont déportés à Babylone, ils ont tous des cheveux crépus et ils sont bronzés. Alors quand vous voyez certains Polonais qui dirigent l'État d'Israël, vous avez envie de rigoler.
Alors, allez, une intervention, ensuite, Gilles.
La situation est inextricable. La situation est quasiment inextricable. Enfin, soyons optimistes, envisageons la paix. Ça ne peut être qu'une paix négociée. Donc, il faut une base de négociation. Alors, est-ce que le schéma, la paix contre les territoires, est-ce que vous seriez preneur, c'est-à-dire la paix, la solution à deux États reconnus ? Est-ce que vous seriez partisan de cette formule ?
Pour être bon, j'ai essayé de ne pas faire de langue de bois dans mon introduction, donc je ne vais pas en faire dans ma réponse. Ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est-à-dire, quand j'ai expliqué que Oslo était une gigantesque tartufferie, de toute façon, si j'ai expliqué que le sionisme est une théorie de la séparation, maintenir un État juif aujourd'hui, c'est une victoire du sionisme. Et on a vu que ce que ça voulait dire, c'est-à-dire quelque chose de totalement exclusif et exclusiviste. La paix contre les territoires, d'abord, elle n'a jamais été envisagée. Ensuite, si on dit deux États, comment on va classifier qui est juif, qui est palestinien ? Admettons qu'on soit capable de trouver des critères. De quel droit ? Il y a 50% de juifs israéliens et 50% de palestiniens entre Méditerranée et Jourdain. De quel droit on donne 78% aux uns et 22% aux autres ? De quel droit on amnistie ? Pour moi, ça a été l'erreur la plus tragique d'Oslo. De quel droit on amnistie 48 ? Le crime fondateur de cette guerre, ce n'est pas la conquête de 67.
C'est le plan de partage.
C'est le plan de partage et c'est le nettoyage ethnique de 48. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, ce nettoyage ethnique qui est prémédité, ce nettoyage ethnique dans lequel plus de 500 villages vont être rasés, où on va changer, c'est ça, c'est revenir là-dessus. Alors, on me dit, mais alors, vous, antisionistes, si vous ne croyez pas en deux États, d'abord, je vous rassure tout de suite sur une chose. Bien sûr, vous auriez demandé aux Palestiniens, juste après Oslo, est-ce qu'ils acceptaient deux États ? Il y avait une majorité qui était pour ça. Une majorité, parce qu'il faut regarder ce qu'Edouard Saïd, un des plus magistraux des intellectuels palestiniens, a dit à l'époque. Ses critiques sont totalement actuelles sur la mystification d'Oslo. Les partis de gauche étaient contre le FPLP, etc., étaient contre, évidemment, les accords d'Oslo, parce qu'ils disaient que c'est un abandon. Le même sondage que vous faisiez en Cisjordanie, où probablement une majorité de la population en 93 était pour deux États, vous le faisiez dans les camps palestiniens au Liban, et 100% étaient contre. Parce qu'évidemment, ils avaient très bien compris, eux, qu'ils allaient être les premiers sacrifiés de ces accords-là. Alors on va me dire, mais alors vous êtes antisioniste, vous n'êtes pas la paix pour la paix contre les territoires, alors vous voulez jeter les Juifs à la mer. Je dis, dans mon bouquin, j'ai un chapitre qui s'appelle comme ça. Alors vous voulez jeter les Juifs à la mer, où je prends plusieurs exemples. L'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a permis aux Blancs sud-africains de rester ? Est-ce que c'est la fin de l'apartheid ou le maintien de l'apartheid ? C'est la fin de l'apartheid parce qu'avec le maintien, ils partaient à terme. Qu'est-ce qui fait que la grande majorité des Français d'Algérie ont dû partir ? Est-ce que c'est le fait qu'il y avait en nombre suffisant des Français pour l'indépendance et en état de négocier dans le cadre de l'indépendance leur maintien, ou est-ce que c'est le fait que les seules élites françaises qui se sont manifestées en Algérie étaient pour l'OAS ? Eh bien, ils sont partis parce qu'ils étaient pour l'OAS. Et en Israël aujourd'hui, c'est l'OAS qui est au pouvoir. C'est exactement l'équivalent de l'OAS qui est au pouvoir. Donc,
en France aussi.
Oui. C'est un autre débat. Je reste dans celui-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur tous ces exemples-là, c'est dans le cadre de la fin du sionisme et dans le cadre d'une seule société, alors quelle forme ça prendra, ça, ce sera négociable. Mais c'est dans le cadre d'une seule société où il y aura une égalité totale de droits politiques, économiques, sociaux. C'est dans ce cadre-là que les Juifs israéliens ont un avenir. Je vous donne une anecdote. On est à Gaza, et donc parmi les dirigeants politiques qu'on rencontre, on rencontre la direction du djihad islamique. Le djihad islamique est un mouvement qui, contrairement à ce qu'on peut croire, est issu du Fatah, une ancienne scission du Fatah. Ils sont à la fois nationalistes et religieux. Eux, ils sont pour la lutte armée jusqu'à la libération de toute la Palestine, Palestine historique, donc le territoire israélien aujourd'hui y compris. Et alors on a une discussion, il est vraiment enchanté de voir l'Union juive française pour la paix, et au bout d'un moment, je lui dis, on suppose que vous gagnez, qu'est-ce que vous allez faire des juifs israéliens? Alors il me répond, il dit, oh, il n'y a pas de problème, puis en plus c'est dans le Coran, tous ceux qui sont nés avant 48, tous ceux qui étaient là avant 48 pourront rester. Je le regarde, je dis, vous savez bien que l'écrasante majorité des juifs israéliens sont nés après 48, et en Israël. Il me tape dans le dos et dit, oui, mais ça c'est la position au début d'une négociation, après on verra. C'est aussi ça la Palestine. Mais derrière cette anecdote, ce que je veux dire, c'est que la question de leur maintien, ça ne peut être que dans le cadre d'une société égalitaire. L'idée de maintenir un État hégémonique, militarisé, où est-ce que dans l'histoire juive vous trouvez le racisme et le militarisme? C'est vraiment une invention du sionisme. L'idée que ça, c'est la condition pour le maintien des juifs au Proche-Orient, je dis non, ça c'est la condition qu'ils partiront comme les pieds noirs sont partis. Donc voilà, si pour ceux qui ont un philo-sémitisme disant il ne faut surtout pas que réparer un nettoyage ethnique par un autre, ce qui est ma position, ne pas réparer un nettoyage ethnique par un autre, c'est l'égalité totale, il n'y a pas d'autre solution.
Alors, Gilles Mercier.
Oui, la survie d'Israël dépend beaucoup, bien entendu, du soutien des États-Unis, qui joue un rôle essentiel dans sa militarisation.
Mais on n'entend rien.
Les États-Unis jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'État d'Israël, mais néanmoins, Israël a aussi une stratégie qui n'est pas forcément tout à fait celle des États-Unis, et elle est en train de diversifier ses soutiens. Et notamment la Russie et la Chine jouent un rôle important. Ils ont des relations économiques fortes. Et même les États-Unis ont mis le haut-là récemment aux relations avec la Chine. Vous l'interprétez comment? Parce que la Chine est dirigée par le Parti communiste. Donc comment vous voyez son intérêt, en quelque sorte, à établir des relations avec la Chine, avec Israël, et par là même à donner un statut, en quelque sorte, à renforcer le statut de ce pays?
Ils ont fait une ambassade de 14 États.
Oui, mais Anne-Marie, tu...
Comment dire? Je vous ai dit que j'étais communiste libertaire, donc je vous laisse la responsabilité de la qualification que la Chine est un pays communiste.
Non,
on rentre pas dans ce débat.
Elle est gouvernée par un parti communiste.
On verra ça dans un autre débat.
Voilà,
dans
un mais non, je veux dire qu'il est évident que l'État d'Israël a acquis... C'est une start-up. Il a acquis une puissance économique, technologique incroyable. Par exemple, bien sûr, militairement, il gagne ses guerres avec les F-16 américains, mais les F-16 américains ne voleraient pas sans la technologie israélienne. C'est-à-dire que c'est véritablement devenu quelque chose d'inscrit complètement dans le capitalisme mondial. Alors après, que la Russie et la Chine trouvent des intérêts capitalistes à commercer avec eux, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dans nos mains. Aujourd'hui, on a, quand vous relisez la déclaration des droits de l'homme de 1946, il n'y a rien à redire. Tout est dit là-dedans. Il n'y a plus un seul État qui la défend ou qui l'applique. Donc c'est dans nos mains de remettre en avant tout ce qui constitue les droits universels, l'égalité des droits, les droits des peuples. Et voilà, bien évidemment, pour l'instant, le rapport de force nous est défavorable. Pour l'instant, l'État d'Israël est suffisamment fort pour établir les relations que vous dites. Il est suffisamment fort pour établir des relations avec tous les États féodaux du Golfe. Il est suffisamment fort pour collaborer complètement avec un dictateur comme Sisi. Les choses ne sont pas irréversibles. Je vais vous mettre une dose d'optimisme. La société états-unienne, là où on tremble tous un peu à l'idée de ce qui peut arriver dans un mois, mais je vais parler du judaïsme américain. 40% des juifs du monde entier vivent aux États-Unis. Maintenant, la très grande majorité des juifs américains, états-uniens, sont contre les dirigeants israéliens. Il y a notre association sœur GVP, Jewish Voice for Peace, ils sont 500 000 amis sur la page Facebook. Ils ont établi des liens extrêmement forts avec Black Lives Matter, avec tout ce que les États-Unis comptent de forces progressistes et de forces antiracistes. Et il se passe véritablement des choses. C'est-à-dire que sur l'identité juive, eux, ils en présentent une autre. Donc, ce qui est dans nos mains, c'est d'empêcher justement cette espèce d'union de tous les puissants sur le dos des peuples. Parce que bon, il n'y a pas que les Palestiniens qui vont être victimes là-dedans. Hein. L'Afrique, elle est largement victime aussi de cette entente qui se fait sur son dos.
Oui, merci beaucoup pour cette intervention tellement inédite, courageuse, qui va en complètement en porte-à-faux tout ce qu'on entend ici, particulièrement en France. Et je vous remercie surtout d'avoir vraiment clarifié les choses par rapport à tout ce qui s'est passé à Oslo. C'était vraiment la négation, on a tout effacé en voulant effectivement jeter plus quelque chose de relatif à la Palestine. Parce que vous parlez des Palestiniens et vos perspectives sont très belles, parce que c'est vrai que les Palestiniens existent, ils existent également dans les camps. Je parlais hier avec une amie palestinienne qui a fait qui a fait tout un travail dans les camps palestiniens, et elle me dit, quand je vais là-bas, j'interroge les enfants, etc., dans le passé, on me dit, oui, moi je suis de tel truc, et ils pensent tous au retour, à la quatrième génération, hein. Donc ça, c'est quand même des perspectives. Bon, mais... merci d'avoir dit aussi que bon, le rapport de force est effectivement défavorable, parce qu'en ce moment, la collaboration avec le monde arabe est absolument horrible. Mais c'est vrai qu'il y a, pour ces derniers Indiens rouges, quand même de belles perspectives. Est-ce que maintenant l'Occident, qui a quand même fomenté ce colonialisme, hein, parce qu'on ne peut pas autrement, va aller dans un sens ou dans un autre, parce que bon, on peut effectivement rester encore deux siècles à attendre qu'on ait un État unique qui ait quelque chose de... Vous voyez, on est un peu loin. Hein. Alors négocier la paix, c'est bien, mais la paix avec quelle paix et avec qui? Parce que c'est difficile. Alors.
Négocier actuellement, c'est pas la peine d'en parler. Je répète, c'est à nous de forcer nos dirigeants à changer de politique, et c'est à nous de le faire en ayant les idées claires. Je prends un exemple. En Allemagne, critiquer Israël est quasi interdit. Alors l'Allemagne, d'un côté, est le seul des pays qui ont été fascistes qui est allé assez loin à l'intérieur de sa propre société pour désosser ce qui lui est arrivé. Et ça en arrive à être totalement pour Netanyahou et à ce que le directeur du musée juif de Berlin soit obligé de démissionner parce qu'il refuse de donner la définition sioniste de l'antisémitisme. Donc, c'est nous qui devons être suffisamment forts vis-à-vis de nos dirigeants. Alors, ce qui a changé dans la société française, dans le film Charles et l'Olivier, d'ailleurs, c'est bien décrit, en 67, 90% de la société française était pour Israël. Et croyait que c'était le pauvre David menacé d'anéantissement qui se défendait. Aujourd'hui, une majorité des gens qui ont une opinion sur la guerre israélo-palestinienne disent que c'est Israël qui occupe et que les torts sont israéliens. Mais ça ne se traduit pas par un nombre suffisant de personnes qui s'engagent. Je donne un exemple. Moi, je voulais initier une pétition européenne de députés européens pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, j'ai 15 signatures. C'est terrible. C'est-à-dire que même à gauche, les gens, même les élus français, d'accord, hein, ils ne s'engagent pas. Donc c'est à nous d'être suffisamment puissants pour obliger nos dirigeants à changer. Je rappelle que une opinion qui change, ça arrive très vite. Si vous prenez la guerre d'Algérie, en 1961, 80% des Français sont pour lutter jusqu'au dernier Fellaga vivant, et un an après, 80% des Français sont d'accord avec l'indépendance de l'Algérie. Et qu'est-ce qui a fait changer les choses? C'est les cercueils qui arrivaient par milliers. Alors, je ne souhaite pas des cercueils à Israël, mais tant qu'Israël ne sera pas puni, il n'y a rien qui changera. Et punir Israël, c'est appliquer le boycott. C'est faire en sorte que la société israélienne soit traitée comme les blancs sud-africains l'ont été. Et nous, nous avons des tas de relations avec nos camarades israéliens anticolonialistes. Et tous, ils nous le disent. Il y a une association en Israël qui s'appelle Boycott de l'Intérieur. Ils disent, notre société d'elle-même, elle n'est pas assez forte pour bouger. On a besoin absolument de vous, de l'extérieur, pour faire pression. Donc, ne croire... Parfois, dans le mouvement de solidarité, il y a des choses qui m'énervent. Il y a des gens qui font du lobbying en voulant aller convaincre le Quai d'Orsay qu'il faut changer de politique. Non, si Le Drian, il est à fond pour le sionisme et pour Israël, comme le Parti Socialiste l'a été et continue de l'être pendant des lustres, c'est historique. On ne les changera pas au niveau de la force de conviction. On les changera au niveau du rapport de force. C'est comme ça qu'on doit agir.
Alors, il y a Michel qui veut poser une question.
Oui, enfin, toujours dans le fil de la discussion, là. Voilà, moi je partage l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à un État, que tu as appelé égalitaire,
citoyens.
Voilà, de tous ces citoyens. La question qui est posée par rapport à ça, c'est que, aussi bien, bon, si on prend le cas de la France, par exemple, les voix qui s'élèvent dans ce sens-là, elles sont quand même assez faibles. Hein, beaucoup restent sur l'idée, au fond, il y a ce partage qui devrait être fait, et puis bon, après, ils se démerdent, encore en gros. Non, sauf qu'il ne sera pas fait, mais bon. Mais alors, ma question est la suivante. Dans Israël, est-ce qu'il y a des forces, qui ont une certaine consistance, qui posent la question dans ces termes-là, et qui le traduisent en termes politiques, je veux dire...
Il y a, c'est minoritaire, mais il y a. Alors, j'ai envie de dire que sur la question du partage, j'en profite, comme je suis marxiste, pour dire quand même qu'il y avait un superbe parti communiste palestinien binational ayant moitié palestinien, moitié juif avant 48, qui était opposé à la partition. Et qui, sur ordre de Staline, s'est rallié à la partition et a perdu la moitié de ses membres, aussi bien palestiniens que juifs.
Donc, et l'URSS a voté la
partition. L'URSS a été un des premiers États à reconnaître Israël, et la guerre de 48 a été gagnée par la Haganah avec pas mal d'armes tchèques. Bon, c'est pour dire que parfois il faut être quand même fidèle à des convictions. Et les défendre jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a... Alors d'abord en Palestine. En Palestine, j'ai dit en 93, écrasamment pour les territoires occupés, ils acceptaient l'idée d'une Palestine réduite à 22%. C'est fini. Même l'autorité palestinienne, dont je... Sans aller totalement jusqu'à ceux qui disent c'est des collabos, mais en tout cas je pense que c'est des fantoches, même eux ils disent ça n'a plus aucun sens de défendre aujourd'hui l'idée de deux États. Et puis... Moi, je sais que les premières fois où je suis allé en Palestine, quand vous y êtes, vous vous dites, mais elle est où la Palestine? C'est-à-dire que vous arrivez, il y a des colonies partout, il y a... je me souviens d'une entrevue avec le maire de Bethléem, qui était FPLP à l'époque, Victor Batarsé. Je connaissais sa politique pour un seul État. Et il me dit, donc on est en 2007... Il me dit, nous ne sommes pas des extrémistes, nous avons une position historique pour un seul État, où musulmans, chrétiens, juifs et non-croyants vivraient ensemble avec les mêmes droits, mais on n'est pas des extrémistes. Si le Fatah obtient un État palestinien sur les 22%, on l'acceptera comme première étape. Et il ouvre sa fenêtre d'une façon très théâtrale. Il y a la colonie de Haroma qui arrive à 200 mètres de la mairie de Bethléem, il dit, mais l'État palestinien, vous le mettez où? Donc il y a cette réalité que de toute façon, aujourd'hui, la séparation, dont j'ai expliqué qu'elle n'était pas souhaitable, elle n'est pas possible. En Israël même, et dans le judaïsme américain, il commence à y avoir des critiques très sérieuses. Il y a un intellectuel juif états-unien, Peter Beinart, qui est assez connu dans son pays, qui a écrit sur 2 pages dans le New York Times pourquoi un État juif était une erreur profonde. Il y a en Israël Ofra Yeshualit, qui est moitié d'origine yéménite, moitié d'origine russe, et qui a écrit aussi un livre, c'est comment ça s'appelle déjà, le livre d'Ofra.
Pourquoi
l'État juif n'est pas une bonne idée. Donc ça, ce sont des choses qui commencent un petit peu à mûrir. Et puis disons, pour les Israéliens anticolonialistes, soit ils foutent le camp parce que la société est devenue invivable, soit ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est vivre dans un État juif. Pour eux, ça devient un poids terrible, ça devient quelque chose. C'est l'apartheid de vue depuis l'occupant qui n'a pas envie d'être un occupant. Donc ces forces-là, elles ne grandiront que si la société israélienne souffre de ce qu'elle fait aux Palestiniens. Tant que la société israélienne ne souffrira pas, il ne se passe rien. Pourquoi aujourd'hui il y a des manifs contre Netanyahou et tout? Parce qu'il a géré de façon absolument encore plus épouvantable que les autres l'épidémie de Covid, et donc il y a des manifestations. Mais les Israéliens, ils se bougent quand ils sont atteints. S'ils sont une société de colons nantis, ils ne vont pas bouger. Et donc la nécessité du boycott, c'est bien la nécessité que cette société, en tant que société coloniale, soit punie comme la société blanche sud-africaine a été punie à l'époque de l'apartheid sud-africain.
Je vais parler de la Chine. La Chine a quand même construit une ambassade de 14 étages à Tel Aviv. Or, pourquoi les juifs américains, beaucoup de juifs américains, sont contre la politique de Netanyahou? Parce que tout d'un coup, les Chinois ont utilisé tout le savoir des jeunes Israéliens, mais c'est incroyable. Et la Chine fait du violon à Israël. C'est un Israélien qui a construit le fameux pont magnifique, là, l'énorme pont qui est en Chine. Et la Chine et Israël sont en train de se partager l'Afrique. Donc il y a un très très gros problème, il y a des écoles juives qui se créent en Chine. Donc il y a des Américains, des juifs américains qui sont furieux contre la politique d'Israël qui s'était mis vers la Chine de peur qu'un jour l'Amérique, les juifs américains ne les soutiennent plus. C'est très grave, il y a tout un truc en ce moment. Mais ceci dit, les Chinois ont très utilisé le fait d'être en Israël, ils ont piqué plein de découvertes qu'ils n'avaient pas.
Oui.
Je voudrais un petit peu revenir quand même sur les opposants en Israël. Parce que, voilà, il y a quand même des articles qui sont faits sur nos amis, par exemple, Eleonore Bronstein, Merza Eitan, qui sont partis en Belgique, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a ce que Michel Warchavski disait à l'enterrement, là, je ne sais plus qui, mais en disant au moins ses
Caminaire.
Enfants sont là, les miens sont partis, ne sont plus là.
Caminaire.
Voilà. Il évoquait tous ces jeunes qui partent d'ailleurs souvent à Berlin, hein, qui partent en Allemagne, qui ne veulent plus de cette société pourrie pour eux. Et ça, c'est des forces vives quand même pour le combat qui manque. Donc,
Il y a des Palestiniens aussi qui partent, ce qui n'était pas le cas et encore il y a quelques années. On en trouve parmi ceux qui meurent en Méditerranée, et nous-mêmes, on a des amis gazaouis qui ont réussi à partir et à se retrouver aussi en Belgique d'ailleurs. C'est vrai. Bon, et puis, je n'ai surtout pas en vouloir, et Léonore est une des préfacières de mon livre d'ailleurs, je n'ai surtout pas en vouloir à ceux qui s'en vont, parce que vivre dans un pays où elle est partie parce qu'elle a un gosse, Adrien, qu'elle ne voulait pas éduquer. Comme les enfants sont éduqués en Israël, parce qu'en Israël, l'ère est sioniste depuis le début. Elle est partie quand elle a vu qu'on faisait faire à son gamin de 3 ans au jardin d'enfants des chars avec du papier hygiénique et qu'on envoyait des lettres de bienvenue et de soutien aux soldats. Bon, tout ça, je le comprends. Bon, même Warchavski, je me souviens, après Plondurci, il était venu faire un meeting en France, il était en larmes, et il a dit, nous, notre génération, on a lutté contre le colonialisme, on va continuer, mais pour la première fois, j'ai demandé à tous mes enfants de quitter Israël. Donc, on comprend parfaitement cette idée-là. Ça n'empêche, je veux dire que c'est... ils continueront de l'extérieur. Nous, on a une association sœur de l'UJFP en Allemagne. Ils font leur réunion en hébreu parce que ce sont tous des Israéliens qui ont quitté l'Allemagne, qui sont antisionistes et qui ont pu exhiber un grand-parent en allemand et qui ont comme ça obtenu la nationalité allemande et qui... Alors c'est un truc de fou, quoi, qu'ils se sentent aujourd'hui beaucoup plus libres dans l'Allemagne qu'en Israël où ils étouffent. Et cette association sœur en Allemagne s'est fait fermer son compte par PayPal, parce que PayPal est sioniste et parce que PayPal ferme les comptes de toutes les associations qui défendent les droits des Palestiniens. On est complètement dans ce monde à l'envers. Bon, ça fait partie du... Sinon, je veux dire, bon, je ne nie pas la puissance d'Israël aujourd'hui, puissance politique, puissance... Bon, le fait que le monde arabe, il y a eu une période où le nasserisme était dirigeant et on n'est plus du tout là-dedans. Et maintenant, ceux qui sont capables de dicter la route dans les pays arabes, c'est le roi d'Arabie Saoudite qui, quand il découpe pas ses opposants à la scie, quand il massacre pas le peuple yéménite, pactise avec Israël. C'est vrai qu'on est dans cette situation. C'est pas inexorable. Il y a des situations qui changent et je suis persuadé qu'elles continueront de changer.
Moi, je voudrais redire par rapport au pétrole. Vous n'avez pas parlé d'une chose importante, c'est la déclaration Balfour. On est en 1917. Tout d'un coup, on s'aperçoit que les chars, les bateaux marchent mieux avec le jus noir qu'avec les charbons. On a tout d'un coup des avions et tout. Rothschild, le vieux Rothschild qui était intelligent, qui ne voulait pas d'un État d'Israël. Il a dit, mais moi j'ai des écoles, j'ai de... à l'époque, en 1900, il y avait 41% à en Palestine, 41% de musulmans, 40% de chrétiens et à peine 10% de juifs. Les grands juifs, c'était surtout les commerçants de Syrie, etc. Bon. Et Rothschild était tout à fait contre, en disant, mais qu'est-ce... Hein, bon. D'autant plus que on prend un juif, on prend un communiste, dans les disait machin. Bon. Rothschild était contre. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que le jus noir devient essentiel. Quel est le seul en 1917 qui est encore des sous? La guerre de 14 devait durer 3 mois. On est en 1917. L'Angleterre n'a plus un rond. Le seul qui a encore des sous, c'est Rothschild. Donc on promet à Rothschild, s'il tire le tuyau qui va du Koweït, parce qu'on sait que le Koweït a du pétrole depuis l'Antiquité, jusqu'à Haïfa. S'il tire le tuyau, on lui fait la déclaration Balfour, un État pour les Juifs, ta. Bon, du coup, Rothschild est pour. Pourquoi l'Angleterre veut ça? Parce que ça nous éloigne, nous les Français, du canal de Suez, ça leur permet d'avoir un mandat sur la Palestine, et puis Khalifa. Et Clémenceau, qui veut la victoire, qui n'aime pas les Arabes, ferme sa gueule. Donc, moyennant quoi, on fait un État pour un tuyau qui va partir du Koweït jusqu'à Haïfa. Les Français perdent Haïfa, on perd le truc, on n'est plus à la proximité du canal de Suez. Tout ça, c'est des magouilles politico-importantes. Balfour n'aime pas les Juifs, donc on débarras en plus.
Je crois que bon, la question pétrolière.
On est contre le pétrole. Moi, j'ai fait la moitié du Moyen-Orient avec un monsieur qui s'appelait Kim Philby.
D'accord.
Je me disais, mais fuis-toi, c'est un Anglais. C'est son père qui a mis l'Arabie Saoudite. Or, vous ne vous rendez pas compte que l'Arabie Saoudite, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est comme si vous mettiez à la tête de la papauté un témoin de Jéhovah bouddhiste. Bon, quand on vient vous dire, les Séoudes étaient des moins que rien. Ils étaient détestés de l'Empire ottoman.
Et je crois que
le pétrole est chez eux, avec l'émir du Koweït. Je me rappelle un truc avec
lui. On va peut-être laisser
tout ça, la réponse. Tout ça joue.
c'est le pétrole, oui. C'est l'argent.
C'est l'énergie, bien sûr.
On alors, a fait Israël, c'est un État européen, c'est le
bah, on entend la réponse, et ensuite la question de...
Je donnerai jamais une définition univoque du sionisme. Il est un morceau de l'impérialisme. Il ne fait pas de doute que en 17, la déclaration Balfour d'un côté, l'aide fondamentale que les Occidentaux vont donner aux Saouds pour s'emparer et à la fois des lieux saints et des régions pétrolières. Ça va de pair. Je répète quand même que ne voir dans le sionisme que ça, c'est se tromper. Ça n'expliquerait pas l'adhésion majoritaire des juifs au sionisme. Donc je dis sur le sionisme, vous devez mettre bout à bout la question impérialiste qui en est une, la question du colonialisme et du colonialisme de remplacement qui en est une autre, la question nationaliste qui en est une troisième, la question de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, comment on s'est allié aux antisémites pour faire partir les juifs d'Europe, et la question du roman national, comment on a raconté aux juifs qu'ils avaient été chassés de chez eux et y rentraient. Parce que si on n'a pas tout ça, le pétrole n'aurait pas suffi et rien n'aurait suffi. Si on n'a pas au bout du compte, là aussi, il y a quelque chose que je voulais dire. Beaucoup de juifs sont arrivés là-bas sans vouloir virer les Palestiniens. En 1944, il y a des élections dans le Yishuv. Donc le Yishuv, c'est la communauté juive autonome qui a été offerte par les Anglais aux dirigeants sionistes. Il y a deux listes. Il y a la liste sioniste et il y a la liste conduite par Martin Buber, qui était aussi sioniste, mais lui, il était pour un État binational. Et il était socialiste. Et la liste de Buber fait 45% des voix. C'est-à-dire que 4 ans avant la Nakba, près d'un futur Israélien sur deux n'était pas pour foutre dehors les Arabes. Par contre, l'idéologie sioniste avait prévu le remplacement et le nettoyage ethnique 40 ans avant. Donc on doit avoir ça pour comprendre le tableau. Le sionisme a gagné parce qu'il y a eu l'extermination nazie, parce qu'il y a eu la destruction de plus de la moitié des juifs européens, parce que c'était quelque chose qui était prémédité depuis longtemps, mais c'est pas un seul morceau. Ne le réduisez jamais à un seul morceau, vous ne comprendrez pas comment ça fonctionne. Comment on peut expliquer aujourd'hui que Netanyahou, allié de tout ce que le monde compte d'antisémites, de Steve Bannon à Trump, en passant par Orban et les dirigeants polonais, et Bolsonaro qui déclare à Yad Vashem que le nazisme était de gauche et tout, comment ça peut passer dans la société israélienne? Ben voilà, c'est que le sionisme, il a produit cette décérébration, comme le nazisme avait décérébré la société allemande en son temps.
Alors on a trois questions. D'abord, Gilles Mercier, ensuite...
Vous avez fait le parallèle un peu avec l'Algérie française pour le devenir d'Israël. Est-ce qu'il y a... Israël est un État dans lequel il y a une violence sociale importante, hein, très inégalitaire. Est-ce qu'il y a des luttes de classe, hein? Et sinon, est-ce que justement le sionisme écrase, au nom du sionisme, il y a un écrasement des luttes de classe?
C'est une question fondamentale. L'essentiel des forces de gauche qui étaient issues du marxisme en Israël ont été laminées, et elles ont été laminées parce qu'elles n'ont pas rompu avec le sionisme. Il y avait même Ben Gurion dans sa jeunesse se réclamait, mais comme immolé, hein, puisqu'on faisait le rapprochement avec l'Algérie, se réclamait d'un marxisme assez orthodoxe. Et voilà, c'est incompatible. Le fait d'être pour le socialisme et le fait d'être pour un État ethnique sont des choses incompatibles. Il y avait un parti de gauche qui s'appelait le MAPAM, donc une partie est devenue le Meretz, qui a été un des initiateurs des accords d'Oslo, mais ils sont sionistes jusqu'au bout des ongles. Mes amis palestiniens me disaient, quand tu négocies avec des gens du Meretz, la première chose qu'ils te disent, c'est en gros, nos droits sur cette terre sont inaliénables, mais on conçoit qu'il y a un problème, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. C'est-à-dire que même cette gauche-là, elle n'a jamais été anticoloniale et elle n'a jamais compris réellement ce qui se passait. Mouvement de lutte des classes. Il y a eu, il y a quelques années, le mouvement des tentes, hein, la classe moyenne appauvrie israélienne, qui a dressé des tentes un peu partout contre les loyers hors de prix, contre le fait que la jeunesse intellectuelle n'arrivait pas à se loger et tout. Et ce mouvement, un tout petit peu à la fin, il a fait la liaison un peu avec les Palestiniens d'Israël qui ont pu intervenir dans des meetings, mais la plupart du temps non. Et dès le moment où un mouvement de ce genre-là ne fait pas le lien avec la question palestinienne, ben il crève, et l'essentiel des voix de ces jeunes révoltés est allé au parti pseudo-laïque qui s'est allié après avec les religieux en ayant juré que jamais il le ferait. Donc la lutte des classes, oui. Le problème de l'État israélien, c'est que c'est une société incroyablement inégalitaire et qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire aux États-Unis, c'est un peu pareil, les plus pauvres votent pour l'extrême droite. C'est-à-dire que ce fait que quand il n'y a pas une conscience politique de renverser la nature de la société, toutes les exploitations par le populisme sont possibles, elle a lieu en Israël aujourd'hui. Et même les juifs misrahim, les juifs orientaux qui sont dans mon livre, il y a plein de documents sur le racisme dont ils sont victimes, même ceux-là, majoritairement aujourd'hui, votent pour Netanyahou. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que les fondateurs de l'État d'Israël, c'est les racistes ashkénazes, ils n'ont pas tort. Et du coup, ils votent Netanyahou.
Alors, oui.
Oui, ben, pratiquement, je viens de recevoir une réponse à ma question. Ces jours-ci, dans Haaretz, Gideon Levy, grand journaliste actuellement, qui a eu un parcours politique différent, mais qui aujourd'hui défend sans relâche les droits des Palestiniens et dénonce surtout les torts qui leur sont faits, a publié un article s'adressant aux manifestants actuels anti-Netanyahou, qui pour beaucoup sont des jeunes, hein, et leur disant, si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble l'armée israélienne, allez en Cisjordanie, hein, parce que actuellement l'armée, les parachutistes en particulier, sont intervenus contre les manifestants, mais avec des ménagements, ça n'a pas été. Et alors, je me demandais, en lisant cet article, si par hasard quelqu'un ou quelqu'une parmi les manifestants pouvait entendre ce que dit Gideon Levy dans cet article et se rendre compte que ce qu'ils vivent, eux, comme un conflit, c'est vraiment de la petite bière à côté de ce que subissent les Palestiniens. Je crains de connaître la réponse, mais comme j'ai pas de contact avec la jeunesse israélienne, voilà.
C'est toujours complexe parce que, là, Florence parlait de Eleonore et Ethan qui animent une association en Israël qui s'appelle Decolonizer. Bon, maintenant, ils sont partis à Bruxelles. Et Decolonizer est une association qui ressuscite pour les Israéliens la mémoire de la Nakba. Leur rappelle que l'État d'Israël a été créé à partir du nettoyage ethnique. Et dans les actions qu'ils faisaient, ils lisaient des passages de leurs livres dans la rue, ils invitaient les passants à lire avec eux. La majorité les jetait, mais il y en a pas mal qui lisaient quand même. Il y a, au moins disons à Tel Aviv, une population européanisée dont la volonté serait de vivre dans une société normale qui n'est pas tenue par des intégristes et qui ne peut pas vivre tous les deux ans. Donc ceux-là peuvent être sensibles à ces arguments. Le problème, c'est que, ce que tu as dit, souvent ils partent. Il y a actuellement près de 15% de la population juive israélienne, et moi j'en ai dans ma propre famille, qui vit hors d'Israël de façon définitive, souvent pour des raisons économiques, mais aussi souvent pour des raisons idéologiques de vivre dans une société normale. Donc ça existe. Alors sur l'armée, il se dit en Israël que Israël n'est pas un État doté d'une armée, mais une armée dotée d'un État. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont consciemment et délibérément transformé la jeunesse en criminels. Par exemple, si vous regardez les images que Breaking the Silence avait sorties sur les crimes commis à Gaza, ce sont des jeunes, des bidasses qu'on a transformés en criminels. Et alors après, vous les trouvez en masse en Inde ou en Bolivie après 3 ans de service militaire pour les garçons et 2 ans pour les filles. Mais transformés en criminels, ils adoptent la chutzpa, cette espèce de sans-gêne total en Israël qui on est les maîtres du monde et on domine tout le monde. Donc c'est véritablement une société qui façonne les mentalités. Moi-même, dans ma propre famille, j'ai un cousin venu d'Argentine il y a 60 ans. Et quand on est ado, on a les mêmes goûts, les Beatles et tout.
Mais je le rencontre 25 ans après, c'est un fasciste. C'est-à-dire que c'est une société qui transforme des gens normaux en des militaristes, des racistes et des fascistes.
Alors, vous avez une
question. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre?
Il y a un ordre.
Qu'est-ce que voilà. vous pensez de la guerre avec la
non, 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 non. On a une question là et ensuite le monsieur. Voilà.
Vous disiez aujourd'hui requalifier les camps d'histoire et génocide nazi, etc., c'est du révisionnisme. Comment est-il possible, vous, l'histoire que vous faites du sionisme est totalement objective, que l'histoire qui est faite du sionisme en Israël est par-dessus tout révisionniste? Elle s'internationalise, c'est-à-dire que même en France, les juifs de France, dans leur grande majorité, pas vous, 90% des juifs de France, sont pour l'État d'Israël et cette vision identitaire et ce révisionnisme du sionisme redéfini. Comment est-il possible qu'on peut réécrire les livres d'histoire ainsi?
La question pour moi, bon, il est évident que quand on est juif, le mot révisionniste est vécu de façon extrêmement douloureuse parce qu'on a en mémoire les forissons et autres faussaires et tout ce qu'ils ont raconté sur qu'à Auschwitz on a gazé que des poux, etc. Mais effectivement, le sionisme est une idéologie révisionniste. Il a révisé l'histoire des juifs à travers du temps. Il a même révisé, je ne sais pas comment dire, il a voulu dire que le centre de l'histoire juive, c'était la Palestine, alors que non, le centre de l'histoire juive, c'est... Et tout ce que le judaïsme a produit de façon religieuse, de façon culturelle, c'est entièrement les différentes communautés là où elles existaient. Les grands noms du judaïsme, j'en sais rien, les Maïmonides, les Einstein, les Freud, les Spinoza, tout ça, c'est des gens qui vivaient dans leur pays et qui étaient pétris de la culture de leur pays. Donc le sionisme a été complètement révisionniste en disant ça, c'est une parenthèse, vous oubliez, vos langues. Je veux dire, moi, la langue maternelle de ma mère, c'est le yiddish. J'ai vibré avec le disque yiddish dans mon enfance. On ne parle plus yiddish que dans quelques quartiers de New York maintenant. En Israël, c'est totalement interdit. Il faut parler l'hébreu. Et en plus, dans la religion juive, il est interdit d'utiliser l'hébreu à des fins profanes. Ils ont tout révisé. Ils ont tout révisé. Ils ont révisé l'histoire. Ils ont révisé l'histoire de la guerre de 48. Donc, on connaît les grands mensonges historiques. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre, du désert nous avons fait un jardin, les Arabes sont partis eux-mêmes. Oui, c'est une idéologie révisionniste, mais entre parenthèses, j'ai grandi en France, je suis né en 50. Moi, j'ai à l'école primaire, j'ai appris les noms par cœur de tous les criminels de guerre français, des guerres coloniales ou de la guerre de 14. Lyoté pacificateur du Maroc. J'ai appris ça dans mes livres d'histoire. Après, il faut se gratter la tête et se demander comment ils pacifiaient le Maroc. Gallieni qui a apporté la civilisation au Madagascar. Bon, c'était avant qu'on les jette du haut des avions. Mais enfin, on se gratte la tête pour savoir ce que c'est, etc. Sur les offensives de la guerre de 14. Donc, des pays qui inventent. Alors, on dit révisionnisme, je mettrai le mot révisionnisme avec le mot roman national. Des sociétés qui s'inventent un roman national pour justifier toute une politique, tous. Les guerres de Yougoslavie n'auraient pas été possibles si dans les différents pays de l'ex-Yougoslavie, on n'avait pas inventé un roman national, les uns que les Kosovars étaient des envahisseurs venus d'ailleurs, ou les autres que, etc., que les Serbes voulaient tout dominer et tout. Le génocide des Tutsis au Rwanda, il n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas un roman national disant que les Tutsis étaient un envahisseur. Donc, le sionisme, il fait partie de tout un révisionnisme historique et d'un roman national qui veut dire que l'histoire, elle doit nous appartenir, elle doit appartenir aux chercheurs, elle doit appartenir... Aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé de ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle Berbère juif, bon, qui raconte un petit peu quels ont été les liens historiques sur 2000 ans entre l'Afrique du Nord, le monde berbère et la religion juive et le monde juif. Bon, ce sont des recherches historiques qui ont été bâillonnées. Et la plupart... Un peu plus de la moitié des juifs français sont originaires d'Algérie. Ils connaissent que dalle à leur histoire. Ils ne savent pas qu'ils sont des berbères. D'accord ? Un fasciste comme Éric Zemmour, il ne connaît pas ses origines. D'accord ?
Alors, je veux savoir, où sont aujourd'hui les camps palestiniens ? Alors, il va le Liban, je suppose, la Jordanie, combien ils sont ?
Alors, il y a actuellement l'UNRWA compte 5 millions, un peu plus, de réfugiés, dont à peu près la moitié sont en Palestine, c'est-à-dire à Gaza, 72% de la population
c'est des réfugiés, 1,5 million à peu près sur 2 millions d'habitants à Gaza. Dans 8 camps seulement, c'est-à-dire qu'à Gaza, la majorité des réfugiés sont sortis des camps. Mais c'est un peu le cas aussi en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a à peu près 1 million de réfugiés. Et là, par contre, à la différence de Gaza, les réfugiés, ceux qui ont la carte de l'UNRWA, sont minoritaires dans la population palestinienne. Légèrement minoritaires, mais minoritaires. Les pays arabes où il y a des camps gérés par l'UNRWA, c'était la Jordanie, qui est le seul qui est allé le plus loin dans les droits civiques octroyés aux Palestiniens, après quand même les avoir massacrés au moment de Septembre Noir avec des armes israéliennes en 1970. Et le Liban, où d'entrée, ils ont subi de très nombreuses interdits professionnels, et certainement la situation la plus désastreuse, c'est au Liban. En Syrie, le plus grand camp qui était le camp Yarmouk a été quasiment vidé et détruit, et les Palestiniens subissent la même situation de chaos que de même que beaucoup de Syriens sont réfugiés au Liban. Il y a beaucoup de réfugiés palestiniens de Syrie qui sont réfugiés au Liban. Donc, cela dit, donc, si on regarde les Palestiniens, Palestiniens d'Israël, 1,8 million. Palestiniens de Jérusalem, 350 000. Palestiniens de Gaza, 2 millions. Palestiniens de Cisjordanie, hors Jérusalem, 2 400 000. Palestiniens dans des camps en Jordanie, enfin dans des camps non, en Jordanie, au Liban ou en Syrie, à peu près 3 millions. Et il reste plusieurs millions de Palestiniens dans le reste des pays arabes, il y en a pas mal dans le Golfe et tout, mais énormément en Europe maintenant, plus d'un million, énormément en Amérique du Nord, il y a même une députée palestinienne extrêmement énergique qui a été élue, et énormément, et ça c'est historique et plus ancien, en Amérique latine. On dit toujours que Betsaour, qui est un faubourg chrétien de Bethléem, il y a plus de Palestiniens de Betsaour à Santiago du Chili qu'à Betsaour.
Oui, c'était juste pour répondre un petit peu à la question sur l'histoire et par rapport aux juifs français et par rapport aux français en général. Il y a eu un excellent petit livre qui est paru il y a, au moment des nouveaux programmes, donc en 2011-2012, où des gens du GFT, de la FPS, etc. ont fait sur justement les programmes de l'époque. Donc je les ai largement pratiqués, hein, les programmes de lycée, avec un œil tout à fait critique. Et voilà, et je peux vous dire que c'est terrible, quoi. C'est complètement ce que disait Pierre, c'est complètement l'idéologie sioniste qui est dans nos programmes. Et dans les nouveaux programmes actuels, puisque vous savez, il y a les nouveaux programmes, donc en terminale, donc je peux dire que le groupe qui a fait ce livre participe pour faire un nouveau livre aussi, hein, il travaille dessus. Et c'est tout aussi dramatique. Voilà. C'est-à-dire que, juste une petite anecdote personnelle. Je discutais avec donc une collègue dans un lycée français, hein, voilà, normal. Et elle sort et elle me dit, c'est terrible. Ils pensent que les Palestiniens ont été chassés. Enfin, elle faisait un contresens énorme. Elle ignorait complètement la Nakba. Elle ignorait complètement le plan d'Alep. Elle ignorait complètement le nettoyage ethnique. Ce n'est absolument pas dans les bouquins. Et cette collègue, qui est tout à fait sympathique et de gauche par ailleurs, lisait les manuels et se faisait à partir des manuels et ignorait tout. Enfin, c'était dramatique. Enfin, c'est comme ça, hein. C'est là, aujourd'hui, toujours.
Je rajoute à ce que dit Florence. Il y a eu à la fois dans les manuels, bon, puisque André Rosweg de l'UJFP a participé au livre dont tu parles, il y avait les images de la guerre de 48. C'était l'Israélien moderne, avec les filles en short cueillant les oranges de Jaffa, dont on ne disait pas que c'était des oranges palestiniennes. Et le palestinien, d'abord l'arabe, on ne disait pas le palestinien, était toujours vu sous un angle archaïque. Le pauvre, il n'a pas compris, il n'a pas encore acquis la modernité. Mais je me souviens, étant une ville à Sakhnin, qui est en Galilée, qui est une ville palestinienne d'Israël, une fois, ils ont demandé que la télé vienne. Et la télé fait un reportage, la télé israélienne, et à la fin il dit ça va passer à la télé, et le journaliste lui dit il faudrait quand même que vous vous mettiez à côté d'un âne que je vous prenne, parce que sinon ça passera pas. Donc c'est l'image du Palestinien, c'est ça. Mais dans les livres d'histoire français, Moi, quand j'étais en sixième, on m'a fait apprendre par cœur le plan du temple de Jérusalem, le premier.
Toujours.
Ouais. Donc, ton seul, qui très probablement n'a pas existé, ou était en tout cas Salomon, s'il a été à l'époque de David et Salomon, s'ils ont régné sur quelque chose, c'était des troupeaux un peu plus grands selon le voisin, et c'est tout. Hein, donc je veux dire, le révisionnisme passe aussi par le fait que le monde occidental, quand il rentre en Palestine, il considère que la Bible est un livre d'histoire, et ce qu'elle n'est pas.
Alors, une question ensuite.
C'est juste pour dire qu'à l'université, c'est pas tellement mieux. J'ai un cours dans la licence d'arabe, il y a un cours sur le Moyen-Orient. Les historiens, les enseignants en sont encore à expliquer que le sionisme, enfin c'est un peu du côté qu'on peut trouver, qu'on peut avoir sur Internet. Le sionisme est présenté comme un mouvement de libération fondé sur la religion. Et donc quand je me suis insurgé contre ce cours, il faut voir que j'ai été remise à ma place. J'ai dit on ne peut pas aborder la question sans parler de la déclaration de Balfour. Et même bien avant, il y avait eu l'Angleterre avait essayé de mettre un foyer juif, et même d'Israélites avaient protesté contre cette idée. C'était un article qui était paru dans le Times, anglais. Et donc tout le cours est exactement comme ça. Or à présent, il y a quand même un travail qui est fait par une Palestinienne.
Sandrine Mansour, non? C'est Sandrine.
Sandrine Mansour. Mais je veux dire, il n'y a pas que les livres de lycée, mais à l'université, c'est exactement la même chose. Mais tous les cours qui sont faits sur le Moyen-Orient et sur le Maghreb colonial, il n'y a pas une seule allusion dans la bibliographie aux historiens arabes, ne serait-ce que ceux d'Afrique du Nord qui écrivent en français. Ce sont uniquement tous les racistes, tous les colonialistes. Mais ça se passe dans les années 2000. Je veux dire, j'ai eu une maille à partir avec beaucoup d'enseignants, parce qu'on en était encore à nous impliquer que les Arabes étaient des paresseux. On opposait soi-disant les Arabes aux Berbères, alors qu'il n'y a même pas une définition très nette de ce que c'est que les Berbères, ou de ce que c'est que les Arabes exactement. Et je veux dire, les Arabes étaient là juste pour brûler les terres, alors que les Berbères étaient des gens qui creusaient. Mais je veux dire, tous les pensées racistes, vous les retrouvez à l'université. Si vous voulez avoir les sites internet, je peux vous les donner, et ils s'en suivent. Et ensuite, à la radio, ça continue. Alors, quand je protestais contre certains propos racistes, j'ai été accusé d'être quelqu'un qui n'avait pas d'humour, c'est tout. Et au CSA, c'est ce qu'on m'a envoyé. Les lettres que j'ai eues, c'était tout simplement parce que j'avais protesté, parce qu'on faisait des bandes dessinées. Il y avait une bande dessinée qui avait paru dans les années, tout au début des années 2000. Alors à ce moment-là, elle était très antisémite, et il y avait un petit garçon qui volait le chocolat parce qu'on était en Suisse. C'était une bande dessinée épouvantable. Il y avait exactement la même chose sur France Culture, sur une petite fille qui s'appelait Gaza. Et cette petite fille Gaza, elle volait les bonbons de l'école, et à la récréation, les enfants criaient « Voilà la bande à Gaza ». Je protestais, c'est le directeur de France Culture du CSA qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'humour. Et il y a toutes les insultes qu'on relève, et encore sur Arte, il n'y a pas tellement longtemps, on en était en train de raconter comment les Israéliens, il n'y a pas tellement longtemps, avaient fait fleurir le désert. Et c'est encore encore ces jours-ci, enfin, je veux dire, ces temps-ci, je veux dire, tous ces pensifs, on l'a vu dur, et il n'y a personne, malheureusement, en face de nous pour protester, c'est ça aussi.
J'avais deux questions en fait.
Plus fort.
J'avais deux questions en fait. La première, c'est... discuter sur la jeunesse palestinienne de Cisjordanie. Depuis 2-3 ans, on en a parlé au début, mais beaucoup de jeunes palestiniens font des attaques au couteau au niveau des chaînes pointes et se font tuer. Et il y en a beaucoup parce que quand ils font ça, ils savent qu'ils vont à la mort. Alors, ma question, c'est... On dit toujours que la Cisjordanie, c'est le point central de la bourgeoisie palestinienne. Alors, est-ce que les jeunes de Cisjordanie, pourquoi depuis maintenant quelques années, vont multiplier les attaques au couteau à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport... J'ai pas la réponse à ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est par rapport à la jeunesse israélienne, quel est le poids finalement de ce conflit colonial, de ces débats au sein de la jeunesse israélienne, puisqu'on voit quand même que donc c'est une société très inégalitaire et que le complexe militaro-industriel quand même est très très important, qu'il y a énormément d'argent, le capital israélien au niveau militaire et industriel. Et est-ce que la jeunesse, une des sources d'inégalités de la jeunesse, un des problèmes majeurs, notamment de la jeunesse israélienne, l'action du chômage, notamment des logements aussi, des prix de logements qui sont très élevés, est-ce qu'il y a une conscience du poids aussi de militaro-industriel très important dans la société qui pèse sur la société israélienne?
Il y a beaucoup de questions sur les Palestiniens. Qu'il existe une bourgeoisie palestinienne, c'est sûr. Que souffrir le blocus à Gaza quand on est dans la bourgeoisie ou quand on est pêcheur ou paysan, c'est pas pareil, c'est sûr, mais tout le monde le subit. Qu'il y ait une bourgeoisie en Cisjordanie, oui. Je me souviens d'images d'un congrès du Fatah où les délégués arrivaient en Mercedes. Mais, bon, dans une situation épouvantable comme celle que subit la Palestine, ces choses-là ne sont pas dominantes. Bien entendu, s'il y a une issue politique et tout, il faudra, comme partout, se méfier de la bourgeoisie. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Sur la question des couteaux, il y a eu des périodes où il y a eu des attentats suicides faits par tout le monde, des jeunes. Ça s'est arrêté. Il y a eu, de même, on pourrait faire la... J'ai envie de dire, les Palestiniens ont tout essayé. Prenez à Gaza les marches du retour. Ça faisait des années que de nombreux jeunes, et pas que des jeunes, voulaient faire ces marches du retour sur la barrière de séparation à Gaza, et c'est le Hamas au pouvoir qui l'interdisait. Il l'a autorisé. Les Israéliens ont tiré dans le tas avec une férocité en visant délibérément, en tuant plus de 300 personnes, en estropiant plus de plusieurs milliers de jeunes et tout. Ce sont des actions spontanées. Les Palestiniens ont tout essayé. Ils ont essayé les actes de désespoir, ils ont essayé la diplomatie, ils ont essayé la négociation. Ils ont tout essayé et il n'y a rien en face pour faire la paix. Il faut un partenaire, et c'est évidemment les Palestiniens qui n'ont aucun partenaire pour la paix. Donc je crois que c'est ça la situation. Actuellement, il n'y a pas, à ma connaissance, de ces attentats suicides qui ont lieu à un certain moment. Il y en aura sûrement, ça reprendra. Je dirais simplement, comme Nelson Mandela, excusez-moi ma vantardise, que ce n'est pas l'occupé qui décide de la nature de sa résistance, c'est l'occupant qui détermine par son comportement ignoble ce que l'occupé peut faire. Je suis moi-même fils de quelqu'un qui était appelé appartenant à l'armée du crime et était décrit comme terroriste. Donc voilà, je sais très bien que les Palestiniens, on va les réduire à des gens qui font des attaques au couteau. Pour moi, toutes les formes de résistance actuellement, elles sont légitimes parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'en face, ils n'ont personne prêt à accepter l'égalité des droits et tout. Sur la société israélienne, bien sûr, elle est extrêmement inégalitaire. Elle a une force idéologique incroyable.
Et la force idéologique, c'est que l'enseignement du sionisme, il commence bébé. Il y a un film anticolonialiste israélien, enfin c'est Simone Bitton qui est à la fois marocaine, israélienne et française, c'est Le Mur, c'est au moment de la construction du mur. On voit Simone qui déambule le long du mur avec une gamine israélienne de 4-5 ans, et elle lui dit tu sais ce que c'est ce mur? Et la gamine regarde en haut et elle dit Aravite, les Arabes. Voilà, elle a 4 ans et on lui a appris que le mur c'est pour la protéger des Arabes et tout va grandir comme ça. Donc c'est une idéologie extrêmement puissante. En ce qui concerne la lutte des classes dont on a parlé tout à l'heure, on ne verra jamais des privilégiés renoncer de plein droit, de leur plein gré à leurs privilèges. Même soumis au capitalisme israélien, même dans une société très inégalitaire, un prolétaire israélien, il a quand même un niveau de vie et un niveau de liberté qui est sans commune mesure avec ce que même un Palestinien d'Israël aura. Le Palestinien d'Israël aura beaucoup plus que ce qu'aura le Palestinien des territoires occupés. Donc il n'y a rien à faire, la fracture elle est là. Pour l'instant, on n'est pas à la veille d'un basculement idéologique de la société israélienne. Mais le basculement, il peut naître du fait que c'est une société incroyablement mondialisée, parce qu'il y a 1,5 million d'Israéliens qui vivent hors d'Israël, et c'est véritablement nous, l'opprobre qu'on mettra. Il faudra qu'on arrive à un degré qui était celui qu'il y a eu contre l'Afrique du Sud. Quand un blanc sud-africain se baladait chez nous dans les années 80, c'était « Ah, t'es sud-africain, mais vous n'avez pas honte de ce que vous faites ». Il faudra qu'on en arrive là, qu'il y ait une réprobation générale vis-à-vis des juifs israéliens sur leur société, les forcer à se démarquer. Il faudra qu'on en arrive là.
Je voulais revenir aussi à ce que vous parliez
plus fort.
Sur le révisionnisme
historique,
sur le roman national. Qu'est-ce qui, d'après vous, verrouille en Europe, dans le monde entier, ou en faire un révisionnisme légitime, en fait? On ne peut pas le critiquer, on ne peut pas le... Enfin, très difficilement. Je pense que ça rejoint aussi les attaques des États-Unis sur la CPI. Est-ce que c'est à cause de la puissance américaine qu'il
y a une... Non, c'est qu'ils sont...
Sur le monde et qu'en fait,
ils sont dans le camp des nantis et des puissants. Ils sont devenus un morceau de... absolument indispensable, je l'ai dit, à l'enfer. Enfin, derrière la Palestine, il y a dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société totalement inégalitaire, dans des états ethnico-religieux, ou est-ce qu'on veut vivre tout le monde avec les mêmes droits? Or, eux, ils incarnent la faisabilité d'un modèle, et en plus, ils se réclament de l'antisémitisme. Donc ils sont avec les racistes, ils sont avec les gens qui refoulent les migrants en Méditerranée, ils sont avec toutes les invasions militaires, mais c'est très ancien, hein. Ils étaient aux côtés de l'apartheid sud-africain, ils étaient aux côtés des généraux argentins et tout, et en même temps ils se réclament d'un des plus monstrueux génocides qui est arrivé dans l'histoire. Donc le révisionnisme, il tient sur cette espèce de bric-à-brac, et il y a véritablement... Je vous le dis à vous, chaque fois que d'une façon ou d'une autre vous ferez le cadeau aux sionistes de l'histoire juive, ils ne rêvent que de ça. Ils ne rêvent que de ça. Alors je dis, en tant que descendant aussi de cette histoire, ils sont infiniment plus proches idéologiquement de ceux qui ont commis le génocide, de ceux qui l'ont subi. Il faut le dire, il faut le démontrer, il faut le décortiquer.
Mais qu'est-ce qui verrouille la parole?
Ben, il y a le fait que si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Et donc, il faut que vous disiez que quand on invite Bolsonaro à Yad Vashem pour qu'il dise que les nazis étaient de gauche, ou quand Orban lance une campagne antisémite contre George Soros, que l'ambassadeur israélien dit « c'est pas bien ce qu'il fait Orban », et que Netanyahou vient virer son ambassadeur et dit « Orban est mon grand ami », ben, il faut dire que cette espèce d'alliance... elle n'est pas contre nature. Ils ont la même idéologie. Il faut arrêter de mettre Netanyahou du côté des victimes. Il est du côté de ceux qui ont commis le génocide. Parce que Orban, il ressuscite, il réhabilite le régime de l'amiral Horthy, régime antisémite qui est responsable de la mort de 500 000 juifs, on croit.
Merci. Et pour en revenir en fait à l'arrêt qu'a émis la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai vu dernièrement, il y a deux jours, hein, le président du CRIF a ordonné au Premier ministre français Jean Castex de revenir sur la circulaire Alliot-Marie.
Non, de ne pas revenir.
De délégitimer l'arrêt de la Cour européenne pour délégitimer le boycott.
Alors
le CRIF est donc c'est une institution qui est supranationale peut-être.
Là aussi il y a un truc de fou sur le CRIF. Je veux dire que le CRIF a été créé alors que la France n'est encore pas tout à fait libérée. Je signale que les communistes ont joué un rôle important dans la création du CRIF. Il était créé en gros dans l'idée, après ce que les juifs ont subi, il est bon qu'il y ait une instance qui puisse les représenter. Il a été à peu près pluraliste et un peu démocratique jusqu'au dernier président qui était un très grand homme, qui était Théo Klein. Et Théo Klein, hélas, qui est mort en limite antisioniste quand il meurt, tellement il a été dégoûté par ses successeurs. Et depuis que Théo Klein a été évincé, c'est une surenchère. Ils ne sont même pas les agents du gouvernement israélien, ils sont les agents de la droite du Likoud en France. Hein. Je veux dire que c'est Habib Meyer qui dirige ça. Je veux dire, le numéro 2 du CRIF, c'est William Gilles Gonnadel, fondateur d'Avocats sans frontières, qui déclarait « Oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3 », etc. Mais je veux dire qu'ils sont passés corps et âme dans les rangs de l'extrême droite raciste. Aujourd'hui, ils expliquent tranquillement que Marine Le Pen est une amie qui n'a aucun problème de ce côté-là. C'est-à-dire qu'eux aussi ont versé dans le révisionnisme le plus complet. Et nos gouvernants, mais ça les arrange tellement que de donner la parole au CRIF. Je veux dire, d'avoir ces représentants-là. Alors, est-ce que le CRIF représente les Juifs de France? Si vous faites, d'abord, combien il y a de Juifs en France? Il y a tellement de moitiés, de huitièmes, on ne sait pas, hein. Il y a tellement de mélanges. Mais disons, il y en a entre 350 et 700 000. Mais le CRIF représente au maximum 60 000 personnes là-dedans. Mais il n'y a que lui qui a la parole.
Oui, alors on n'a plus que quelques minutes, donc deux questions, j'ai deux questions enregistrées. Oui.
Je vais essayer de faire vite, je voudrais juste compléter un peu, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense, sur la question de l'attrait d'Israël à l'égard de, la manière dont énormément de Français pensent qu'il se passe vraiment des choses bien en Israël. C'est des gens qui vont dire aussi que Netanyahou est un horrible, tout ce qu'on veut, mais qui par contre succombent aux campagnes extrêmement habiles de blanchiment et notamment de blanchiment culturel monté par Israël. J'en connais et il suffit que Ohed Naharim vienne donner un spectacle de danse magnifique.
La Batsheva.
Pour dire, ben oui, vous voyez bien, il y a plein de choses bien qui se passent en Israël. Bon, d'autres éléments culturels peuvent jouer aussi, des colloques organisés en Israël, auxquels bien évidemment on va participer puisqu'il faut encourager les bonnes choses qui se passent dans l'université israélienne, enfin, etc., etc. On pourrait énumérer pas mal d'exemples. Et il me semble que c'est important aussi pour comprendre qu'en France, les gens de gauche, des gens ouverts, etc., pensent qu'il faut encourager tout ce qui se passe de bien en Israël et que ça suffit à justifier le reste d'une certaine manière, ou en tout cas à cimenter l'édifice.
Alors, j'ai une question.
Rapidement, une remarque. L'opinion publique en général est très très critique vis-à-vis d'Israël, y compris l'opinion de la diaspora. Mais pour autant, elle ne délégitime pas. Critiquer, c'est une chose, délégitimer, c'en est une autre, très différente.
Voilà, c'est un pas qu'il faudra franchir. Ouais. Ça rejoint la question précédente. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud vendait essentiellement? C'était son sport. Je rappelle quand même que les matchs France-Afrique du Sud, il y en a eu quasiment jusqu'au bout au pays de l'apartheid, et que Alain Prost a gagné son titre de champion du monde des conducteurs la première fois à Kyalami, à côté de Johannesburg. Donc l'Afrique du Sud vendait son sport, et c'est le jour où elle a été foutue dehors des Jeux Olympiques que la fracture a commencé à l'intérieur de l'establishment blanc sud-africain.
Israël vend sa culture et vend ses universités, sa technologie et sa science. Donc, de toutes les formes de boycott, l'un des plus fondamentaux, c'est le boycott culturel et c'est le boycott universitaire. Et y compris, je veux dire que dans les animateurs du mouvement israélien boycott de l'intérieur, il y a des scientifiques, bien sûr, et qui disent oui, toutes nos universités participent au complexe militaro-industriel. Ariel, colonie, a une université, une des plus grandes colonies dans le nord de la Cisjordanie, mais c'est une université qui est une filiale du Technion de Haïfa. Donc boycotter l'université d'Ariel sans boycotter le Technion de Haïfa n'aurait évidemment strictement aucun sens. On boycotte un État. Et je crois que, oui, cette histoire de délégitimation, il faut comprendre qu'on n'a pas d'autre solution, comme il fallait délégitimer l'Algérie française, quoi. On n'a pas d'autre solution.
Voilà. Alors, je sais qu'il y a peut-être d'autres questions. C'est très passionnant, évidemment. Donc, nous sommes encore là pendant quelques minutes. Vous pouvez en discuter. Mais voilà. Je clôt la séance.
Non, Anne-Marie, voilà. Sois raisonnable. Elle n'est pas raisonnable.
Merci.
Elle est gentille, mais elle est un peu rastrégueuse. Mon père explosait le combat. Oui, non, mais attends, Anne-Marie, là, on va pas y arriver. Là.
Je propose d'applaudir pour cette belle séance qui a. Deux moments de pub. Venez le 24 octobre à Lannemezan pour Georges Ibrahim Abdallah, parce que il est à la prison de Lannemezan. Georges Ibrahim Abdallah, je peux garantir, pour l'avoir rencontré trois fois, on ne sort pas indemne d'une rencontre avec Georges Ibrahim Abdallah. C'est parce que la France est complice d'Israël qu'il est en prison depuis 36 ans, alors que personne n'est en prison depuis 36 ans. Voilà, donc faites-le. Rejoignez le BDS dans la mesure du possible, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est boycotter Israël. Puis je fais un peu plus personnel, si vous avez encore des trucs, il y en a beaucoup dans le livre. Hein. Voilà.
Voilà. Comment il va, Ibrahim Abdallah?
Il va intellectuellement vide du fait qu'il s'informe énormément et qu'il a énormément de visites. Donc il n'abjurera évidemment pas. Il a le langage marxiste de la fin des années.
Merci beaucoup.
Merci Pierre et merci d'être.